Monsieur Benoît, mes chers collègues, nous sommes donc aujourd'hui tout à fait heureux de vous recevoir. Vous allez donc vous présenter votre thèse. Je pense qu'une dizaine de minutes serait à vous aider. Une dizaine de minutes, et pas la seconde près, mais enfin, en gros, une dizaine de minutes ou un quart d'heure, pour nous laisser le temps ensuite, chaque intervenant, d'intervenir. Nous interviendrons ensuite, évidemment, dans l'ordre suivant, monsieur le directeur de votre thèse, qui est tout à fait dans la loi, monsieur Richard Potier, et puis ensuite, je donnerai la parole à monsieur Amiel, puis au professeur Sicard, puis à monsieur Alain Berthaud, et puis évidemment, comme je préside, je terminerai. Voilà, vous avez donc le loisir de me présenter votre thèse.
Merci, bonjour. Bonjour messieurs les membres du jury, donc je vous remercie à tous de m'avoir fait l'honneur de faire partie de mon jury de soutenance. Je saisis aussi cette occasion pour remercier la Ligue contre le cancer grâce à laquelle j'ai obtenu les financements nécessaires pour effectuer mon travail, ainsi que le docteur Assin et tout le personnel du CACH qui ont été pour moi des informateurs parfaits et surtout des intéressés. Je remercie en dernier lieu le directeur Peter Scottinger et son équipe pour l'intérêt qu'ils manifestent envers mon travail en venant filmer cette soutenance pour les archives audiovisuelles de la recherche. Le travail que je vous soumets aujourd'hui à votre appréciation constitue une recherche en anthropologie de la maladie qui porte sur les représentations et le rapport aux soins, principalement liés au cancer, des usagers de trois structures du CACH de Nanterre, le CHAPSA, le CHU qui accueille les sans-abri parisiens pour la nuit, le CHRS longue durée, centre d'hébergement et de réinsertion sociale, ainsi que la maison de retraite du CACH de Nanterre qui accueille les personnes âgées défavorisées qui sont souvent issues des deux autres structures. Il s'agit dans cette recherche de dégager les principaux problèmes relatifs à la santé et notamment au cancer dans la population ciblée. Donc chacun sait que les conditions de vie des personnes sans-abri sont très difficiles. Ils meurent souvent dans des circonstances atroces et pas seulement de froid, pas seulement l'hiver. La maladie les affecte aussi très durement. On constate que des maladies bénignes pour la plupart d'entre nous vont avoir pour les personnes les plus démunies des conséquences dramatiques, parfois amenées à des morts prématurées. Lorsqu'on se penche sur la question, il apparaît très vite que le problème vient essentiellement d'un déficit de soins. Des pathologies qui nécessiteraient des prises en charge thérapeutiques sont laissées en abandon ou parfois traitées de façon très aléatoire. Donc on pourrait penser que la cause en est pour ces personnes l'impossibilité d'avoir accès aux soins, et c'est effectivement le cas dans certaines couches défavorisées de la société française, mais ce n'est pas le cas dans la population du CHAPSA, car l'écrasante majorité bénéficie de l'AME pour les sans-papiers, de la CMU et de la CMU complémentaire pour les personnes en situation irrégulière. En outre, le CHAPSA accepte également les sans-abri qui n'ont aucune couverture médicale. Donc si on peut regretter qu'à cause du refus de certains médecins libéraux ou de certains hôpitaux, ces personnes sont obligées de se rendre dans des structures spécialisées dans le but de se faire soigner, on ne peut pas dire qu'une prise en charge est impossible. D'ailleurs, elle est tout à fait possible pour eux. Donc qu'est-ce qui explique le déficit de soins dont ces personnes sont victimes? Le problème réside la plupart du temps dans ce qu'on appelle la non-compliance. La non-compliance, c'est un anglicisme synonyme d'adhésion et qui est défini comme la concordance entre le comportement d'un individu et les prescriptions médicales. Donc à l'inverse, la non-compliance, c'est la non-concordance entre le comportement de cet individu et la prescription médicale. Et cette non-compliance est très fréquente dans la population SDF. On observe malheureusement certaines pathologies avec une assez grande fréquence, comme les pathologies des membres inférieurs. Ainsi, j'ai souvent observé des plaies qui, non traitées, se transformaient en gangrène et risquaient la septicémie. Quand le refus de soins persiste, donc le risque de mort n'est pas négligeable. Les conséquences de la non-compliance sont particulièrement dramatiques dans le cas de cancer, car on sait que dans ces cas-là, dans cette maladie, la prise en charge précoce et le traitement suivi sont indispensables. Donc ce problème de non-compliance, il est très connu des soignants du CHAPSA ainsi que des bénévoles et des associatifs qui rencontrent les personnes sans-abri. Mais il semble que cette question n'ait qu'exceptionnellement été traitée en sciences humaines. Patrick de Clercq l'a certes abordé dans son ouvrage « Les naufragés », mais il traite surtout avec une approche psychanalytique, beaucoup plus qu'anthropologique. Donc cette question restait largement à aborder dans notre discipline. C'est pourquoi, jugeant opportun d'orienter la recherche dans cette direction, j'ai essayé, en partant de la population constituée par les usagers du CHAPSA, du CHRS et de la maison de retraite du CAGE de Nanterre, de dégager les causes de la non-compliance dans la population SDF. L'anthropologie médicale permettant d'aborder des questions qui dépassent le strict champ des sciences humaines et sociales, la présente recherche soulève à la fois des questions éthiques et de santé publique. D'éthique médicale d'abord, puisqu'il s'agit de questionner le comportement qu'adoptent des soignants face à des malades qui refusent leurs recommandations ou qui refusent strictement d'entamer une démarche thérapeutique. Et une question de santé publique ensuite, puisqu'il s'agit d'essayer de comprendre ce qui contribue à causer chaque année au bas mot plus d'une centaine de décès dans la population SDF. Je dirai quelques mots rapidement sur la méthodologie à laquelle j'ai eu recours. Donc mon approche était strictement qualitative, je n'ai pas utilisé de questionnaire ou d'enquête ou de statistiques. Ces méthodes qui sont parfois utiles n'étaient guère adaptées au terrain sur lequel je travaillais. Le choix du sujet impliquant de s'intéresser au vécu des personnes, les questionnaires n'étaient guère utiles et les statistiques étaient guère utiles et il est fort probable que la population choisie aurait refusé de se soumettre au jeu des questionnaires, faute de temps et pris par leurs conditions de vie. Donc j'ai surtout participé à l'observation directe, principalement lors des consultations médicales. Cette technique avait l'avantage d'avoir directement accès aux faits plutôt de m'en remettre aux représentations et à la subjectivité des informateurs que j'aurais pu questionner. Et mes données n'étaient donc pas déformées par leur subjectivité. Elle m'a d'ailleurs, cette observation directe, beaucoup appris sur les interactions entre soignants et soignés et sur la façon dont ces derniers suivent leur traitement ainsi que sur les pathologies les plus fréquentes. Toutefois, cette méthode ne me permettait pas d'avoir accès au vécu des malades. C'est pourquoi j'ai accordé une place importante à l'observation participante qui me permettait de les suivre dans leur quotidien et donc de connaître tout leur rapport au corps, aux institutions de soins et à la santé. Malinowski nous a enseigné la nécessité pour l'ethnologie de s'immerger dans la population étudiée. Idéalement, il faut, selon lui, je le cite, « se couper de la société des Blancs et rester le plus possible en contact étroit avec les indigènes », ce qui ne peut se faire que si l'on parvient à camper dans leur village. Donc il était très difficile en milieu urbain d'appliquer cet objectif idéal. Pour des raisons familiales, par exemple, je n'ai pas pu passer la nuit au centre avec le CHAPSA, au centre avec les usagers, mais que le terrain soit choisi soit proche ou lointain, la méthode d'observation participante ne reste pas moins la mieux adaptée lorsqu'on accorde la priorité à la dimension du vécu. C'est pourquoi l'enquête fut de type ethnographique principalement. Donc, dans la mesure du possible, j'ai tenté de participer au quotidien de mes informateurs, qu'il s'agisse des salariés ou des usagers. Donc j'ai participé par exemple à la mendicité avec les personnes sans abri, je les ai suivis dans le foyer dans la rue et j'ai aidé dans les tâches les plus faciles les soignants du CHAPSA. Afin d'avoir des compléments d'information, il me fallait bien sûr m'entretenir avec les personnes sans domicile. Pour cela, j'ai d'abord essayé l'enquête par entretien enregistré, que j'ai rapidement dû abandonner. Et donc, j'ai trouvé que les entretiens formels n'étaient guère adaptés dans le contexte du CASH. Les usagers, lassés du caractère formel des relations qu'ils entretenaient, préféraient des entretiens informels. C'est pourquoi j'ai préféré mener des entretiens informels et intégrés dans l'observation participante. Laissant la parole au SDF, je me suis forcé de les traiter non pas comme des informateurs, mais comme d'autres sujets, des alter ego, auxquels je ne demandais pas de répondre à mes questions, mais de me dire leur vérité, et non pas la vérité. Dans toutes ces situations d'enquête, j'ai mis un point d'honneur à ne rien dissimuler, qu'il s'agisse de mon statut de chercheur ou de mes buts et de mes moyens. L'observation participante est une méthode parmi d'autres qui s'est révélée efficace, mais qui a un inconvénient. Elle implique un très fort engagement du chercheur sur mon terrain, avec un grand risque de subjectivité. C'est pourquoi, effectivement, le foyer concentre tout au long de l'année une très grande densité de misère et laisse aux usagers, aux travailleurs ou aux visiteurs une impression très désagréable. Nos sens sont désagréablement stimulés et les images dont on est les témoins sont parfois très dérangeantes, voire choquantes. Il m'est arrivé de m'inquiéter pour mon intégrité physique lorsque j'étais menacé d'être frappé, même en une occasion d'être tué. Enfin, l'observation participante a eu des conséquences qui échappent aux chercheurs. Les relations avec certains usagers sont transformées en empathie, en sincère amitié, et leur lente dégradation et leur mort a eu des conséquences très difficiles à gérer. Donc les affects mobilisés ont compromis inévitablement l'objectivité de ma recherche. Outre ces difficultés, la présence même du chercheur, comme le rappelle Georges Devreux, influence sur le terrain. Donc on ne peut pas espérer être objectif en pratiquant ce type d'observation participante. C'est pourquoi, pour pallier à ces inconvénients, il a fallu accompagner l'ethnographie de la maison de Nanterre d'une approche réflexive. C'est ce que j'ai tenté de faire en tentant d'analyser mes propres réactions et mon rapport au terrain. Au sujet des difficultés que j'ai rencontrées durant mon enquête, la première a été d'avoir accès au terrain. Il m'a fallu plusieurs mois avant de rentrer en contact avec l'institution du CHAPSA, car les associations que j'avais contactées avaient opposé un refus. Il est probable qu'ils se méfiaient de la présence d'un chercheur en sciences humaines. C'est grâce à l'Observatoire scientifique du SAMU social que j'ai réussi à rentrer en contact avec le docteur Assin, qui m'a accepté de m'accueillir au CHAPSA, puis de m'introduire au CHRS de longue durée, ainsi qu'à la maison de retraite du CAGE de Nanterre. La deuxième difficulté que j'ai rencontrée concerne la population ciblée. Ce n'est qu'à partir de ma troisième année de thèse, qu'ayant obtenu un financement à la Ligue contre le cancer, j'ai ciblé mon enquête sur la question de cette maladie, et d'autres difficultés se sont présentées à moi. Je n'ai en effet pu rencontrer qu'un nombre assez faible de SDF atteints d'un cancer. En effet, la population concernée est relativement réduite et la méthode même de l'observation participante implique de travailler sur une population restreinte. Mais dans ce cas, ça diminuait d'autant la probabilité de rencontrer des personnes atteintes d'un cancer. Et même lorsqu'un cancer était diagnostiqué, encore fallait-il que j'en sois averti à temps. Ensuite, la plupart des personnes sans domicile meurent jeunes. Or, on sait que le cancer, on a plus de risques de contracter un cancer lorsqu'on est une personne âgée. Et en troisième lieu, les personnes sans abri, comme j'ai déjà dit, ont très peu recours aux soins. Et s'il existe des campagnes de dépistage qui leur sont destinées, elles sont souvent rares et inefficaces. Et il n'est pas rare qu'un usager diagnostiqué dans un hôpital refuse toute prise en charge. En dépit de tous ces problèmes, j'espère être parvenu à un certain nombre de conclusions. Tout d'abord, il me semble que contrairement à ce qu'affirment la plupart des soignants, l'absence de recours aux soins ne résulte pas de la présumée grande fréquence des pathologies psychiatriques. Si le comportement des sans-abri nous paraît souvent déraisonnable, c'est parce que nous ne comprenons pas qu'il s'explique par l'anormalité de leur condition de vie. La priorité pour les SDF est de satisfaire les besoins qu'ils jugent indispensables. Pour tous, il faut trouver un endroit pour dormir, trouver de la nourriture. Pour certains, satisfaire leurs addictions, pour d'autres, trouver du travail ou réguler leur situation administrative. Dans un tel contexte, la maladie devient un problème secondaire, un trouble quelconque n'est considéré par eux que lorsqu'il devient un handicap qui les empêche d'exercer ces activités qu'ils jugent indispensables. À ce premier problème s'en ajoute un second, l'incompréhension mutuelle entre soignants et patients. Les sans-abri ont souvent une opinion négative des soignants. Ils estiment que les solutions proposées par l'institution sont inadaptées et éprouvent du ressentiment à l'égard de l'institution et ce qu'ils nomment la société. Dans le même temps, ils assimilent ces soignants à l'institution et cela aggrave le ressentiment qu'ils ont envers eux ainsi que leur réticence à avoir recours aux soins. De leur côté, les soignants ont une représentation déformée d'SDF. Ils les voient à travers les trois stéréotypes classiques de l'altérité. À leurs yeux, ils sont soit fous, soit des enfants, soit des sauvages. Et dans tous les cas, il conviendrait de les rééduquer. Ces stéréotypes résultent de ce que j'ai appelé un ethnocentrisme de classe, que nous partageons tous spontanément. Cet ethnocentrisme affecte les comportements des soignants qui se montrent souvent trop maternants ou trop autoritaires, les deux attitudes étant incompatibles avec une prise en charge correcte puisqu'ils reviennent à infantiliser le patient. Ces préjugés aggravent naturellement les comportements de non-compliance puisqu'en réalité, aucune véritable relation thérapeutique n'est possible dans ces conditions. Les préjugés des soignants sont dus à la fois à leur perméabilité aux représentations communes et au caractère stigmatisant du statut d'usager induit par le fonctionnement du CASH. Les salariés du CASH, comme d'autres salariés, n'ont guère d'autre choix que d'adhérer ou de faire comme s'ils adhéraient à l'idéologie de l'institution qui les emploie. Celle-ci présentant tous les caractères de ce que Goffman a appelé une institution totale. L'idéologie des structures d'accueil n'est pas une idéologie humanitaire. Leur fonction est de gérer et de mettre en flux des personnes considérées comme étant indésirables. Les soignants qui y travaillent finissent donc par adopter, même s'ils n'en ont pas conscience, une attitude normative, voire coercitive. En outre, les conditions de travail des salariés du CASH sont extrêmement pénibles du fait des sous-effectifs, des bas salaires et du découragement lié aux échecs répétitifs dans les prises en charge. En conséquence, ces derniers adoptent toutes sortes de comportements défensifs qui aggravent encore le refus de le déficit de soins. Donc pour tenter de résoudre tous ces problèmes, il me paraît évident qu'il conviendrait d'agir à la fois au niveau du cadre institutionnel et au niveau des méthodes de prise en charge thérapeutique. En ce qui concerne le cadre institutionnel, les centres d'accueil sont à repenser entièrement. Les SDF ont besoin d'être accueillis dans un lieu où il leur soit possible d'être hébergés et soignés sans avoir à renoncer à leurs activités quotidiennes et que ces dernières ne soient plus systématiquement stigmatisées. Il conviendrait donc que les règlements soient assouplis dans toutes ces structures et que les possibilités d'accès à l'antenne médicale ou aux autres services médicaux soient largement élargies. Il faudrait aussi qu'un accueil continu de jour comme de nuit et 24 heures sur 24 soit assuré au CHAPSA. L'amélioration des conditions d'accès, l'optimisation du confort et de l'intimité dans des chambres individuelles, la disponibilité de salariés formés en nombre suffisant constituent autant de mesures indispensables. En ce qui concerne les modalités de prise en charge, il faut au minimum que les affectations au CHAPSA ne soient plus imposées aux soignants et que ceux-ci bénéficient d'une formation destinée à les informer de ce qui fait la spécificité des patients SDF. Laisser à des personnes extérieures le soin de décider à la place des principaux intéressés, ce qu'il conviendrait de faire, constituerait toutefois à mes yeux une grave erreur. Il serait en fait indispensable d'instaurer un dialogue entre les soignants et les usagers afin que ces derniers soient partie prenante dans une redéfinition du système de soins qui les concerne. Ce n'est qu'à cette condition que l'on pourra vraiment espérer répondre, au moins en partie, aux véritables besoins des sans-abri. Il faut bien sûr s'attendre à ce que beaucoup jugent ce projet irréaliste. Trop de personnes adhèrent encore au mythe du clochard complètement désocialisé ou qui auraient choisi ce mode de vie. Je leur répondrai que selon ma propre expérience, dans leur immense majorité, les SDF souhaitent sortir de leur situation et sont parfaitement capables d'entrer dans des rapports sociaux normaux et constructifs. Il suffirait de leur faire confiance et de consentir enfin à les traiter comme des semblables. Pour finir, qu'il me soit permis de résumer en quelques mots le sens que j'ai voulu donner à ma recherche. Il est classique dans les sciences sociales d'opposer la recherche fondamentale et la recherche appliquée. L'une se situerait dans le champ exclusif du savoir, l'autre serait destinée aux commanditaires d'une étude, afin que ceux-ci s'en servent pour prendre des décisions. Dans un cas comme dans l'autre, le chercheur est placé en dehors de l'action. La distinction entre action et savoir est donc dans les deux cas opérante. La notion d'anthropologie impliquée, élaborée par Jean Benoît et Alice Delclos, et à laquelle j'adhère, permet, me semble-t-il, de dépasser une telle opposition. Selon cet auteur, dans le domaine de l'anthropologie médicale, au lieu de rester un simple ingénieur du social dont la recherche est destinée à ses seuls commanditaires, l'ethnologue doit devenir un acteur à part entière, et les résultats de sa recherche doivent être communiqués aux malades eux-mêmes, ainsi qu'à la population à laquelle ces malades appartiennent. Dans mon propre domaine, je souhaiterais que, conformément à ce principe, les données que j'ai recueillies deviennent accessibles aussi bien aux sans-abri qu'aux personnes qui tentent de leur venir en aide et que les uns et les autres puissent communiquer et entamer un dialogue pour réfléchir ensemble aux solutions qu'il conviendrait d'apporter aux problèmes que j'ai tenté de décrire. Messieurs les membres de jury, je vous remercie de m'avoir écouté. C'est avec reconnaissance que je suis maintenant disposé à bénéficier des observations et des critiques que vous voulez bien me faire.
Merci Monsieur Benoît de cette excellente synthèse. Vous avez même poussé le talent jusqu'à déjà en préfiguration de ce que nous allions vous dire, objecter aux objections, car c'est le cas, évidemment. Vous les avez deviné, c'est bien. Je pense que ça va clarifier encore plus le propos. Alors, je cède la parole à mon collègue et ami, le professeur Pelletier, qui est notre directeur de thèse, comme chacun.
Eh bien, mon cher Yann, je tiens tout d'abord à vous féliciter d'être parvenu à achever cette thèse dans les délais fixés. En principe, vous l'avez faite en 4 ans sur le papier, vous l'avez faite en 4 ans, mais en réalité, vous l'avez faite en 3 ans, puisque les 2 premières années, vous deviez travailler pour soutenir vos jeunes entrepreneurs. C'est donc une thèse qui, en fait, est réalisée dans des délais extrêmement courts, de sorte que vous n'avez pas pu atteindre les objectifs que nous étions fixés. Bon, en deux mots, j'ai d'ailleurs une excellente ethnographie des années du cash, une analyse intéressante des relations soignants-soignés, mais que, évidemment, c'est bien une ethnographie des soignants. Plus précisément, il manque un chapitre dans lequel vous auriez décrit en détail les parcours de vie, les parcours professionnels des différents types de soignants, c'est différents types, les ASH, les aides-soignants, les personnels infirmiers, les médecins. Avec sur chacune de ces catégories des données biographiques suffisantes, des informations détaillées sur la formation que ces personnes ont reçue, sur la manière dont elles ont été affectées au cash, sur l'expérience qu'elles ont vécue, etc. De telles données nous auraient permis de mieux comprendre leur motivation et des comportements qui sont d'ailleurs très diversifiés, très variables, en fonction des statuts, mais sans doute aussi de l'expérience vécue. À faute de disposer de ces données, vous avez parfois tendance à juger au lieu d'analyser. Or, en matière d'anthropologie appliquée, ça ne sert à rien de juger. Puisque, comme vous le dites vous-même, un bon système, c'est un système qui n'est pas fait pour les anges, mais pour des gens ordinaires. Du point de vue d'une anthropologie de la maladie, en conséquence, votre thèse paraît un petit peu déséquilibrée. Elle penche un petit peu trop, peut-être, du côté des patients, qui étaient en l'occurrence des SDF, et au détriment d'autres, des soins, des soignants. Et quand on utilise une interrelation, ben, pour ces deux parties soient égales. Hein. Mais encore une fois, ce n'est pas un reproche que je vous fais, c'est la conséquence du manque de temps, tout simplement. Il nous a manqué, je dis nous, parce que nous avons travaillé ensemble, mais il nous a manqué une année, tu vois. Donc c'est, disons, une invitation à approfondir ultérieurement cette question. Telle qu'elle se présente, cette thèse représente en effet tout un travail abouti, dont le rôle naturel du directeur de thèse étant celui d'avocat, je vais laisser mes distingués collègues le soin de souligner le point faible de votre travail, dans la tâche beaucoup plus agréable, de souligner ses points forts. Alors, auparavant, quand même, un tout petit mot sur la force, je ne sais pas trop un maniaque sur ces questions. Je dirais que bon, vous avez fait d'immenses progrès. Test facilement, mais toujours en raison du manque de temps, il n'a pas été possible de procéder à une dernière lecture soignée, ou la longue liste, la trop longue liste que vous avez envoyée. Bon, je suppose que ces corrections vont être incorporées. Alors, je dirais qu'il faudra aussi anciennement revoir la population, qui est, je dirais, très étrange. Très étrange. Dernier point, la bibliographie va la compléter. Éviter de citer les auteurs à travers les auteurs et de prendre le contexte, puis enrichir du côté de l'anthropologie médicale. Alors, j'ai besoin maintenant de vous aider. Je vais successivement votre ethnographie des usagers du cash, puis votre analyse des relations soignants-soignés. En ce qui concerne le premier point, je voudrais en premier lieu souligner la finesse de vos observations et la qualité des descriptions que vous nous donnez des comportements des soignants-soignés dans les différents lieux qui sont dans la rue de Chapsa, l'hôpital Max-Cosquier, la maison de retraite, la sierre de Chapsa, etc. Grâce à la pratique de l'observation participante, vous avez su partager les activités de ceux que vous avez toujours refusé à considérer comme des simples informateurs, et vous parvenez avec succès à nous faire saisir en quelque sorte de l'intérieur leurs émotions, les sentiments qu'ils éprouvent et la manière dont ils voient le monde. Votre don d'empathie s'est parfois retourné contre vous, au point que vous confessez vous avez failli abandonner votre enquête, tant la participation était devenue incompatible avec l'observation, mais fort heureusement, la raison universitaire, je dirais, finit par l'emporter chez vous sur la cité humanitaire, et vous êtes parvenu à retrouver la bonne distance, ni trop près, ni trop loin, je reviendrai sur ce plan. Parmi les données descriptives qui m'ont le plus intéressé, je mentionnerai notamment votre description de l'ennui. Cet ennui qui vous ronge les sens de fil de l'intérieur et qui est la rançon d'une existence principalement tournée vers la satisfaction des besoins les plus immédiats. Une vie caractérisée non pas par l'absence de projets comme certains le croient seulement, mais par l'impossibilité de former des projets à long terme. D'où une indifférence envers les conséquences de la maladie qui, de l'extérieur, nous paraît incompréhensible, simplement parce que nous ne comprenons pas la condition de vie. J'ai beaucoup aimé également votre description du sentiment d'invisibilité qu'éprouvent certains SDS, avec corrélativement le caractère insupportable pour eux de l'indifférence des patients, ce qui renvoie bien sûr de leur part un désir de reconnaissance, un désir d'être reconnu comme des sujets à part entière. Un tel désir s'exprimant de manière emblématique, c'est celui que vous appelez Édouard, par une pratique bénévolat, quand même inattendue chez la pathologie, une pratique bénévolat qui lui permet de redonner un sens à sa vie. Comme quoi, il est beaucoup plus agréable de donner que de recevoir ce que nous voulions continuellement. Je mentionnerai encore, mais bien d'autres observations mériteraient encore d'être citées, la description que vous faites de la Manche, sa difficulté, la honte qui l'accompagne, honte que vous avez vous-même expérimentée, ainsi que l'effet désinhibiteur de l'alcool, et aussi le fait qu'on ne soupçonne pas non plus de l'extérieur, qu'elle implique un certain savoir-faire, qu'elle exige un apprentissage. En second lieu, je voudrais souligner l'intérêt théorique de certaines de vos analyses. Vous faites en particulier une critique convaincante du mythe du clochard à nouveau de sa liberté et de la notion d'acteur libre et rationnel appliquée au sens logique, en montrant que la rue n'est pas un espace de liberté, mais au contraire le lieu de toutes sortes de contraintes, le lieu de toutes les contraintes, un lieu où s'expérimentent quotidiennement le dénuement matériel, la coercition, l'humiliation et l'insécurité. Votre critique des notions d'anomie, de désocialisation, de mort sociale suscite également pleinement mon adhésion. À cet égard, la description que vous nous donnez de ce petit rite d'hommage des fins que vous avez observé va beaucoup impressionner. J'approuve de même une critique de l'interprétation trop psychologisante des comportements des sans-logis. Ces interprétations ne sont pas nécessairement erronées, elles sont même souvent pertinentes, mais elles se situent à un niveau superficiel, elles se situent au niveau des causes immédiates, elles n'éteignent pas les causes ultimes. Et pour cette raison, elles ont souvent quelque chose d'un peu dérisoire. Quand vous nous dites, par exemple, dans le cas de celui que vous appelez M. Poirier, le vrai remède serait non pas un antidépresseur, mais un travail régulier, bien, j'apprends pleinement dans votre sens. En troisième lieu, toujours sur le plan théorique, j'ai trouvé extrêmement intéressant l'analyse que vous faites de certaines catégories de pensées qui sont mobilisées tant par les SDS que par leurs soignants, en particulier les positions sacrées versus propreté et alcoolisme versus sobriété. Là, on est vraiment dans le domaine de l'anthropologie. Vous analysez finement la signification idéologique de ces catégories, qui encore une fois renvoie au mythe de l'esclavage du sujet. Vous montrez bien comment l'alcoolisme et la fatalité peuvent être vécus comme des souillures de caractère ontologique. Vous montrez bien aussi l'ambivalence du rapport à l'alcoolisme et pourquoi le tabagisme n'a pas la même signification. Vous montrez enfin comment le rôle de référent identitaire que remplissent ces catégories éclaire le comportement de certains sans-logis, soit qu'ils négligent complètement leur hygiène ou s'abandonnent à l'alcoolisme, soit au contraire, ils cherchent de manière quasiment obsessive ou possible à rester propre et sobre, avec dans les deux cas un souci constant de se démarquer d'autrui. Bien entendu, c'est toujours l'autre qui est sale, c'est toujours l'autre qui boit trop, c'est toujours l'autre qui boit mal. Je voudrais en dernier lieu souligner que vous avez reçu parfaitement tenir compte de la dimension réflexive de l'enquête ethnologique. En faisant le choix de l'observation participative, vous avez rappelé dans votre présentation, en renonçant à des méthodes objectivantes, vous pouviez avoir accès au vécu des gens, mais vous voyez naturellement le risque de porter sur vous un regard subjectif. D'où la nécessité d'analyser votre rapport au terrain, ce à quoi vous êtes parvenu, bien que, comme je l'ai évoqué au début de mon intervention, ce ne fut pas toujours pour vous chose facile. Vous êtes efforcé de tenir compte dans vos analyses de votre sympathie immédiate pour les pauvres et les exclus. Vous avez pris conscience inversement de vos préjugés, de votre ambivalence, que nous partageons tous. ambivalence qui s'exprime particulièrement bien à travers le rapport au corps, avec quelques descriptions extrêmement intéressantes sur la relation de dégoût que nous pouvons éprouver partout. Vous êtes en train forcé de tenir compte de la manière dont le présent pouvait modifier les comportements de ceux qui observent, qu'il s'agisse des soignants ou des chirurgiens. Donc au total, il me semble que vous nous donnez une image du cache qui est assis dans la rue, qui, comme toute photographie du réel, reflète inévitablement un certain point de vue, et qui est d'une grande richesse et d'une grande honnêteté. Je suis persuadé que les données que vous nous livrez seront réutilisables par d'autres chercheurs, ce qui, à mon avis, constitue le seul critère de scientificité auquel nous puissions sérieusement prétendre dans notre discipline. En ce qui concerne maintenant les relations soignants-soignés, les observations et les analyses présentent à tes yeux un cadre d'intérêt. En premier lieu, je vous montre bien que les parcours erratiques que suivent certains en logique résultent principalement de l'incompréhension mutuelle entre soignants et soignés. Vous nous proposez de ces parcours une sorte de modèle, qui, comme le modèle, présente inévitablement un caractère un peu schématique, mais dans la mesure où vous l'illustrez par des descriptions concrètes, ce n'est pas vraiment gênant. L'essentiel est que ce modèle nous éclaire sur les comportements des uns et des autres, et sur la nature des interrelations qui se nouent entre soignants et soignants. À juste titre, vous insistez sur l'ambivalence des partenaires de la relation. Certains sont logés, par exemple, de manière contradictoire, à la fois être maternés et être traités en adultes. Cependant que réciproquement, certains soignants, en particulier les infirmières, voudraient de manière tout aussi contradictoire concilier leur désir de maternage avec la volonté d'agir en professionnel. Surtout, vous excellez à montrer comment ce de véritable servicieux du fait que les partenaires de la relation perçoivent de manière déformée leurs intentions mutuelles et sans que la bonne volonté des uns ou des autres soit en cause, ce qui débouche finalement, continuez-vous, de manière pessimiste, sur une absence de relation thermique. En second lieu, vous rendez parfaitement compte de la situation très inconfortable des soignants, se trouve écartelé entre des exigences contradictoires et qui finissent souvent à des délibérés, par exemple démotivés, de sorte qu'ils n'ont d'autre ressource que de se réfugier derrière le comportement du défenseur, que vous décrivez de manière convaincante. D'où, comme le dit Patrick Leclerc, la mentalité neuronopathe dont témoigne nombre d'entre eux. Les cas de certains malades que vous avez observés illustrent de manière spectaculaire les dilemmes d'ordre professionnel et éthique de rencontre des soignants. Je pense par exemple au cas de celui que vous appelez Henri. Que peut faire un médecin ou une infirmière face à un malade qui refuse tous les soins? Le cas de celui que vous appelez Jacques me paraît encore plus intéressant, car il vous permet de poser une question qui, du point de vue de l'éthique, est tout à fait fondamentale. Dans quelle mesure un refus total des soins peut-il être rationnel? En faisant appel à la notion qu'elle aussi vous empruntez à la suite de faire, de souffrance fond, vous soutenez qu'un tel comportement doit être considéré comme rationnel. Mais d'une part, le dilemme moral de vivre les soignants n'en reste pas moins entier, car subjectivement, leur responsabilité reste engagée. Et d'autre part, on pourrait ajouter, en reprenant vos propres arguments, on pourrait objecter, en reprenant vos propres arguments, que le comportement de Jacques n'est ni qu'en apparence, et que la décision que plus ou moins publiquement il a prise de se lever est une décision sous contrainte. Donc, il y aurait place ici, évidemment, il n'y a pas de solution, mais il y aurait place ici pour une réflexion ici, que je ne vous reproche pas de ne pas avoir mené, ce n'est pas votre sujet, mais qui pourrait être intéressant de développer à la suite. Sur le plan théorique, en troisième lieu, j'ai été intéressé par l'analyse que vous faites des facteurs qui déterminent l'incompréhension des soignants. Le rôle que jouent tout d'abord les stéréotypes de l'altérité, les figures du fou, de l'enfant et du sauvage. Ces idées, certes, ne sont pas entièrement nouvelles. Je me rappelle que l'articolité est l'objet d'une longue discussion lors d'un séminaire de notre laboratoire, mais vous les appliquez avec une grande pertinence. L'ignorance, ensuite, de la part des soignants, des conditions de vie technologique, les contraintes liées à la vie dans la rue ou à la recherche de petits boulots, les conséquences aussi de l'isolement dans lequel vivent les personnes qui ont souvent, des personnes qui ont souvent perdu toute attache familiale. Le cas de Guy illustre bien ce dernier point, puisque avec les meilleures intentions du monde, son médecin veut l'envoyer à Marseille, où son patient ne connaît absolument personne, sans comprendre que ce faisant, il le condamne à une véritable mort sociale. le contexte institutionnel de la prise en charge enceinte qui aggrave tous les problèmes. Vous montrez bien que c'est ce facteur qui s'oppose le plus à la compréhension du fait que les élèves sont des personnes normales, mais que leurs conditions de vie anormales en sont des patients atypiques. Vous décrivez aussi de manière convaincante, à travers de nombreux exemples, les effets pervers, tant des règles d'accès au CHASSA, au service des urgences, au CHRR, SLD ou à la maison de retraite, que des cloisonnements administratifs entre gestionnaires et soignants, ou entre services sociaux et services publics. J'ai été particulièrement impressionné par le cas de celui que vous appelez M. Dupont, qui, lorsque la direction décide de transférer au CHRSLD, alors qu'il s'était fait en quelque sorte une nouvelle famille au siège de CHASSA, a préféré se suicider en avalant une boîte entière d'anxiolytiques après s'être enivré plutôt que d'accepter un tel transfert. Le fond du problème, bien sûr, c'est que l'idéal médical est particulièrement incompatible, ou du moins partiellement incompatible, avec les objectifs d'une institution comme le CASH, dans la mesure où celle-ci constitue ce que Goffman appelle une institution totale. D'autres préfèrent traduire l'anglais « total institution » par « institution totalitaire », mais je veux dire, je préfère nettement votre traduction, car nous avons l'habitude d'appliquer l'adjectif « totalitaire » à un type de régime politique. Au demeurant, c'est un point tout à fait secondaire. L'important, c'est que dans la terminologie de Goffman, le mot anglais « total » connote la notion d'un contrôle exercé sur la vie privée, d'un effacement des limites entre vie privée et de vie de la publique. Or, c'est bien ce que vous voulez dire lorsque vous qualifiez le CASH, et plus particulièrement, nous en disons de CHASSA, l'institution totale, puisque, comme vous le montrez parfaitement, le CHASSA constitue réellement pour ces sujets une composante de leur vie qu'il contrôle et qu'il aménage. De ce point de vue, l'une des conclusions les plus intéressantes et en même temps les plus pessimistes à laquelle vous nous aboutissez, c'est que les sans-logiques n'ont pas véritablement d'alternative. Il ne s'agit pas pour eux de choisir entre la vie dans la rue et les foyers, car ceci représente pour eux non pas une solution de rechange, mais un simple prolongement de leur vie dans la rue. En dernier lieu, dans la perspective d'une anthropologie appliquée, ou plutôt, je dirais, impliquée, les mesures que vous proposez me paraissent raisonnables. Pour améliorer la compréhension des patients sur le juge, il faut agir, c'est l'évidence même à la fois au niveau des procédures de la prise en charge et au niveau du mode de fonctionnement du CASH, mais dans la mesure où l'obstacle ultime n'est rien d'autre que la barrière invisible qui, dans notre esprit à tous, sépare notre monde de celui des SDF, il faudrait aussi pouvoir instaurer un véritable dialogue entre les soignants et les soignés. Donc qu'un tel dialogue soit souhaitable, cela ne paraît pas douteux, cela me paraît indiscutable. Alors, naturellement, il resterait à en définir les modalités, ce qui pose un double problème, d'une part l'extrême diversité des usagers du CASH, d'autre part l'absence d'instances représentatives de ces usagers qu'il faudrait pouvoir organiser pour qu'on parle d'une seule voix. Est-ce que cela serait possible? Comment? C'est une question qui me paraît mériter un débat et sur laquelle j'aimerais vous entendre l'exprimer. En conclusion, je dirais que cette thèse représente une contribution significative à l'anthropologie de la maladie, notamment parce qu'il y a eu jusqu'à présent relativement peu de travaux d'orientation proprement anthropologique, tant sur l'accès aux soins des épidémies que sur les malades cancéreux. Ces deux terrains, et je sors d'un congrès qui a pu le constater, hein, ces deux terrains sont pour le moment massivement occupés par nos collègues psychologues. N'est-ce pas, Philippe? Nos collègues psychologues, qui d'ailleurs, profitant de notre absence, s'autodésignent souvent comme anthropologues, même un petit peu fort, alors que précisément leur approche, quel que soit l'intérêt de leurs travaux, que je ne conteste pas, leur approche est extrêmement réductrice, donc à l'opposé d'une approche anthropologique, puisque l'approche anthropologique, justement, est totale. Donc malgré quelques lacunes auxquelles j'ai fait rapidement allusion et qui sont liées au fait que nous avons une année, votre thèse comble un manque, c'est à mon avis son principal mérite. C'est ce pourquoi je vous encourage très vivement à poursuivre dans cette voie.
Merci, monsieur le directeur de la thèse. Merci, monsieur Benoît, vous avez le loisir de répondre à son. Ça, en particulier sa dernière interpellation, il n'y a pas eu beaucoup de questions, donc en fait, vous avez 5 minutes, si vous le désirez, pour intervenir, pour préciser un certain nombre de points. Vous
n'êtes pas obligé non plus. Hein, vous pouvez répondre à la fin de toutes les interventions aussi. C'est comme vous l'entendez.
La question qui est posée à la fin concernait la façon d'organiser le dialogue finalement entre les différents parties.
Donc il est bien évident que ça passe par une circulation d'informations, donc une circulation peut-être vulgarisée des conclusions auxquelles j'ai été amené, mais ça passe aussi par l'accord des instances concernées, c'est-à-dire l'accord des directions du CHAPSA. Après, je pense que c'est beaucoup plus facile qu'on peut l'imaginer de regrouper ensemble des personnes sans domicile, l'usage du CHAPSA et des soignants. J'ai pu constater quand tout va bien, quand tout le monde est détendu, le dialogue existe malgré tout quelquefois dans un moment de détente informel hors du cadre du soin. Donc ça me paraît possible, mais on manque du moyen matériel et des autorisations pour le faire dans l'immédiat.
Vous imaginez une réunion, bien sûr tu vas faire. Je ne suis pas sûr que ça
change. Je pense que ça. Il faut que ça prenne du temps.
Et qu'est-ce que c'est le rôle de l'épouse?
Le rôle d'un médiateur, mon rôle aussi est de traduire en termes simples aussi.
Vous dites vos résultats de l'escommunité, mais comment vous allez vous y prendre? Vous savez, vous ne pouvez pas appeler, c'est un petit peu comme,
hein. Oui, non, c'est la. C'est un piège un peu pour l'instant, mais je pense que une communication orale est assez simple pour l'instant dans le cadre de réunions, plusieurs réunions sans doute organisées au cache, tout simplement où seraient conviées les personnes sans abri, mais effectivement pour cela il faut avoir quelque chose que puisse arrêter les allers-retours entre Paris et Nanterre et que puisse avoir le temps de se poser pour accepter de venir à ces réunions. Donc effectivement le dialogue est possible, mais je pense qu'il sera possible après une certaine réforme de redéfinition de la prise en charge des personnes sans domicile. Sinon, si déjà ces personnes refusent de se faire soigner, il n'y aura pas forcément la démarche de venir écouter un entretien.
Je
cède
la parole maintenant à M. Gilles Bagnel. Bonjour, M.
le Président, merci. Voilà, mon cher Yann, mes chers collègues, je suis particulièrement heureux et je tiens à dire en propos de l'INER que cette recherche soit allée à son terme, qui trouve aujourd'hui donc son point d'aboutissement ou un point d'aboutissement, puisque la thèse n'est pas la fin, qui est le chercheur, c'est plutôt le début. Et je souscris tout à fait à l'idée qu'indiquait Richard Potier, qui t'encourage donc à poursuivre dans cette voie, sur cette thématique où effectivement très peu de choses sont actuellement travaillées. Alors, c'est une recherche qui a pleinement à service, c'est une recherche importante qui comble un manque et qui débouche en réalité sur une thèse qui est une excellente thèse de mon point de vue, je dirais dans un instant pourquoi. Ben, je voudrais dire quelques mots d'abord. Sur le chercheur, sur Yann, nous connaissons. J'ai vu arriver Yann, je crois que c'était en 2005, précisément au moment d'une panne, on peut dire ça, enfin d'un moment particulièrement difficile pour l'anthropologue engagé sur le terrain. Donc c'était probablement un retour de bâton, un retour de terrain. Je ne sais pas si les ethnologistes savent, les sociologues, un analphabète, évidemment, sur ces questions. Voilà, donc j'ai vu arriver Yann, à l'unité de recherche en sciences humaines et sociales que je dirige à l'Institut cancérologique du Cerveau. Je crois que cela va expliquer la présence et aussi la relative absence du cancer dans la tête. Donc je termine sur ce point. Donc Yann cherchait à ce moment un financement ou un emploi. Yann était prêt à changer de sujet de thèse à ce moment-là, pour s'orienter vers une recherche portant sur une thématique mieux vendable, mieux finançable, évidemment que tout ça avec les guillemets nécessaires. Et donc, moi j'avais une étude sur laquelle je pouvais embaucher Yann pendant quelques mois, ce que nous avons fait, et nous avons travaillé ensemble à essayer de définir au SAM pour Yann, je crois que nous avions tenté de mettre en place un contrat chiffre sur les comités de patients à la Ligue contre le cancer, qui était l'occasion de ce contact avec la Ligue. Bon, ce qui s'est avéré assez rapidement, finalement, Yann reprenant confiance, eh bien, c'est que cette étude sur les SDF était la chose qu'il fallait terminer. Et là, je dois dire, tu as eu la gentillesse de faire aussi ses remerciements à la Ligue contre le cancer, qui est une seule contre le cancer, a eu la coopération sympathique, c'est qu'elle a trouvé le financement pour achever ce travail important sur cette population, sur laquelle nous savons très peu de choses. Alors, moyennant quoi, effectivement, tu as dit à quel point la question du cancer est particulière, parfois elle est dans un sens marginal par rapport à ce flux de problèmes sanitaires et sociaux que rencontrent les SDF. On a bien compris que les références que vous faisiez au cancer sont des références à une pathologie chronique prise au paradigme, finalement, et il n'est pas gênant que le cancer ne soit pas présent à chaque âge de ce mémoire. Alors, je voudrais maintenant parler du fond de la thèse et de ses qualités. Alors, évidemment, c'est difficile de parler après l'exposé extrêmement détaillé de Richard Potier, auquel j'adhère complètement. J'ai été extrêmement frappé de lire ce travail qui démarre un petit peu lentement, avec ce premier chapitre, qui est un très gros chapitre, peut-être un peu long. Et puis, en fait, très rapidement, quand on arrive au récit du chapitre 2, eh bien, voilà, on abandonne la posture de lecture évaluative et on est pris, totalement captivé par le texte qui à ce moment-là, il y a des moments qui sont de grands moments, de très belles histoires qui sont racontées, dont il rend du compte avec beaucoup de talent. Alors évidemment, j'ai été extrêmement frappé, alors je connaissais un petit peu cette structure cache, je me suis rendu compte à quel point ces structures étaient illisibles. Déjà, j'ai été obligé de faire un graphique pour me repérer entre le cache, le CHRS, le CHRS LD, la maison de retraite, l'hôpital. C'est extrêmement illisible et là, il est certain évidemment que les SDF usagers qui arrivent à se repérer là-dedans ont développé des compétences de la société qui sont des compétences qui c'est une certaine expertise. Alors, j'ai relevé évidemment très rapidement cette chose que tu soulignes en passant, mais qui est à mon avis l'un des symptômes, si on peut dire, de la situation extrêmement paradoxale dans laquelle la situation se trouve, de ce service de soins infirmiers à domicile, un SIAD, hein, pour les personnes sans domicile fixe. Alors, on est dans une espèce de paradoxe ou de folie. Que tu décris à d'autres endroits quand tu montres ces questions courtelinesques finalement qui sont pas des questions simples hein, de compétences sur des territoires où c'est cette même institution qui cache le gars qui se trouve en danger qui ont eu l'impression qu'il est en difficulté dans un couloir qui n'est pas le couloir du service des urgences. Il faudra appeler les pompiers pour les faire traverser en gros la cour qui mène d'une institution à l'autre. C'est évidemment extrêmement frappant. Alors, voilà, c'est un travail qui fourmille de notations. Je ne veux pas redire ce que Richard Potier a dit avec beaucoup de talent. Moi, j'étais un petit peu frustré quelquefois par, en particulier dans le chapitre 1, par l'épistémologie peut-être un peu sommaire autour des notions d'objectivité, par exemple. Bon, ça mériterait probablement d'être un petit peu travaillé. Objectivité réelle, bon, cette mise en cause du travail par questionnaire est juste, mais ce n'est pas forcément cette argumentation-là qu'il faudrait développer, disons qu'elle pourrait être renforcée. Voilà, j'ai été aussi un petit peu troublé, il y a quelques confusions, me semble-t-il, enfin, ou peut-être de la précision qui pourrait être apportée à la question de la rationalité. Il me semble que dans une partie du travail, tu incrimines les lectures rationalisantes, en gros, de l'action collective ou de celle des organisations, de certains confrères. En fait, les arguments que tu déploies sont, les pics que tu envoies sont rouges, enfin, sont pertinents. En même temps, tu mobilises cette notion de rationalité comme étant une qualité des acteurs, en particulier dans le cas de Jacques, extrêmement frappant, dont le refus de soin apparaît et décrit comme étant une démarche rationnelle. Donc, en fait, ces rationalités ne sont pas tout à fait sur le même plan, et surtout, je crois qu'on gagne à ne pas confondre rationalité et autonomie. Rationalité et liberté. Le but imaginaire, en tout cas, pour les théoriciens de la rationalité en sociologie, que dans une situation extrêmement contrainte, où il y a très très peu de marge de liberté, la démarche des acteurs soit pour autant rationnelle. Voilà, enfin, vous avez une suggestion pour la publication, disons, de quoi qui pourrait être précisé. Alors, il y a une quantité de notations qui sont des notations extrêmement justes. Je voudrais simplement relever celles qui intéressent non seulement l'anthropologie du domaine que tu as travaillé, mais beaucoup plus largement l'anthropologie de la santé et du soin, c'est tout ce qui touche à la question de la compliance, de l'observance. Il n'est pas certain que le principe, que le fonctionnement que tu décris soit si différent dans un hôpital en cancérologie accueillant des populations moins exotiques, je le terme exotique au sens du terme. Et voilà, cette critique est extraordinairement bienvenue. Et je pense que les sociologues, les équipes qui travaillent sur d'autres populations pourront s'inspirer de cette critique de la notion de compliance qui exprime véritablement un conflit de rationalité entre la rationalité des soignants et la rationalité des soignés. C'est à mon avis très très bien, très très bien vous avez dit. Voilà, j'ai été extrêmement frappé également par le cas de Jacques, je le redis, qui est vraiment. Là, je pense que c'est un élément pour l'ancien président du Conseil de l'Association des Études, ma chère collègue. Voilà, je pense qu'il y a une très remarquable mise en lumière de cette difficulté à combiner autonomie et vulnérabilité, qui est une question qui intéresse l'ensemble du système en réalité de santé. Alors, peut-être pour finir, des questions sur deux plans. Alors, quelque chose qui est peut-être un détail, mais tu fais souvent référence à tes options idéologiques pour introduire, et ça à deux reprises, d'une part la référence à la discussion totale, à Goffman, et d'autre part la référence à parlant de la domination. Qui n'est pas très très expliqué en réalité. Alors, je te pose la question, mais il n'est pas nécessaire d'y répondre ici. Est-ce que ce sont des heures sous-idéologiques, la situation de la personne totale et pas liée à la domination, ou est-ce que ce sont les cadres d'annexe? Pardon?
Je pense que c'est
la. Ah, pardon. Donc, ces références à l'institution totale, à Goffman, et ces références à la domination, est-ce que ce sont des options idéologiques? Ou est-ce que ce sont des cadres d'analyse?
Ce sont des cadres d'analyse, j'ai bien compris.
Alors, une dernière question, je vais passer pas très très important à détail. Là. La question essentielle, c'est par rapport au rôle de l'anthropologue dans cette situation-là. Comment organises-tu, imagines-tu, de pouvoir organiser un protocole d'expérimentation sociale pour mettre en œuvre les solutions que tu préconises? Ou peux-tu l'envisager?
J'espère pouvoir envisager.
C'est la même question que Sandro, j'ai bien compris, c'est la question de savoir comment organiser la discussion entre les personnes sans abri et les soignants et moi-même.
Alors, je vais un pas plus loin, puisque je suggère dans mon propos que tu imagines un protocole d'expérimentation sociale, donc c'est l'expérimentation de nouveaux dispositifs, c'est peut-être de nouveaux horaires. Voilà, disons que la question que je te pose, c'est est-ce qu'il est suffisant de compter sur les effets de vérité qui sont liés à la production d'une description ethnographique, ou est-ce qu'il ne faut-il pas que l'anthropologue entre un pas plus loin dans la définition du protocole d'expérimentation
sociale? Sur l'anthropologie appliquée, je veux dire qu'effectivement j'aimerais pouvoir aller plus loin et participer à la partie prenante, participer à cette expérimentation.
ça, effectivement, il faut avoir la tribune, pour pouvoir, encore une fois, que j'explicite mon point de vue aux différentes parties, aux différents acteurs de la, du problème. Après, les modalités précises, ça reste, je pense pas pouvoir les définir seul, puisque je suis pas l'unique. Il y a beaucoup de contraintes autour qui font qu'on va être plusieurs chercheurs, mais que les institutions dans le cadre desquelles soit faire peuvent aussi intervenir dans cette redéfinition.
En tout cas, voilà un chantier, voilà, qui peut être académique ou non académique, en tout cas qui intéresse.
Voilà.
Merci, mon cher collègue. Merci, monsieur Benoît. Vous avez eu le loisir de répondre, je crois. Bon, et bien, nous allons passer la parole maintenant au professeur Sicard.
Merci pour votre participation à ce jury, parce que votre travail fait partie de ceux qui changent réellement le regard en l'obligeant à se poser sur le réel et à utiliser le mot exotisme en désexotisant les situations de précarité. Il faut tout travail de recherche n'a de sens que s'il ouvre sur une perspective qui dépasse le champ même de la recherche. J'ai le sentiment que la qualité de ce travail, ça repose sur son ouverture à l'universel. C'est comme ça que je l'ai perçu et qu'il m'a fait réfléchir à d'autres situations que celles que vous aviez envisagées. De la même façon d'ailleurs que je rends hommage à Richard Potier qui, par son regard ethno-anthropologique, a eu une influence absolument considérable sur la vision que je peux avoir de la maladie et de mon métier. Donc que j'ai retrouvé quelquefois une sorte d'influence du maître dans votre travail qui m'a réjoui. Universel pourquoi ? Universel parce que vous analysez de façon très concrète le rapport normal-anormal et que depuis Canguilhem, cette question ne cesse de hanter la médecine. Qu'est-ce qu'une personne normale ? Qu'est-ce qu'une absence de maladie ? Et l'étrange difficulté à traiter anormalement des sujets normaux. Des sujets qui sont normaux, et alors on se dit tout de suite qu'on est pris dans le piège de dire voilà qu'on utilise le mot normaux et que la grande difficulté, c'est la capacité humaine d'aborder de façon spécifique et sans barrière, sans censure institutionnelle, tel ou tel aspect. Avec la tentation donc de traiter normalement des gens pourtant jugés anormaux. Donc cette ouverture sur l'universel du soin m'a fait penser au questionnement qui se pose du traitement des malades du Sud par des médecins du Nord, avec, et je rejoins ce que disait le professeur Amiel il y a quelques minutes, au fond, une critique des rationalités à l'œuvre, et avec justement ce sentiment que la compliance ou la non-compliance n'est pas directement liée au statut de ces personnes en situation de grande précarité. Deuxième universel, c'est le rapport à la médecine bon malade et mauvais malade. La médecine ne cesse d'être hantée par le fait que si le malade est disponible à la médecine, s'il la reconnaît, il est un bon malade, s'il échappe à sa rationalité, il devient une menace pour l'institution elle-même en lui faisant perdre une sorte d'assise totalement investie sur sa propre rationalité, au fond comme si la rationalité médicale ne supportait pas d'autres rationalités. Universelle par la relation à l'autre, enfant ou sauvage, comme bouc émissaire permanent de l'absence de rapport. Et que je trouve que cette façon de le pointer est parfaitement juste. Universelle par l'interrogation de l'institution médicale ou hospitalière comme contradiction permanente de deux finalités. Et je rejoins encore le professeur Amiel quand il J'ai vu dans un hôpital qui n'est pas très loin d'ici, à l'hôpital Cochin, rue Saint-Jacques, des personnes, sinon agonisantes, mais en grande détresse, dans la rue Saint-Jacques, c'est-à-dire à 3 mètres de l'hôpital, et que l'hôpital se disait « Appelez le SAMU, appelez la police, ce n'est pas notre rôle de sortir de l'hôpital. » Donc on voit très bien que ce que vous pointez est en fait une situation qui est permanente et qui est peut-être moins dénoncée lorsqu'elle est dans le domaine universel. Enfin, et je trouve que c'est tout à fait fort, la façon dont vous l'avez très clairement identifié, par des pages sur le rapport de la douleur physique et morale. Et je trouve que la crainte du soulagement de la douleur physique comme faisant réapparaître la douleur morale a rarement été aussi évidente dans mon esprit. Et je trouve que là, vous ouvrez des pistes, et un travail de recherche doit être un travail de pisteur qui ouvre d'autres travaux plutôt que de les refermer. J'étais particulièrement touché par les pages sur l'humiliation, sur l'ennui, sur la sécurité, sur la fierté, sur la promiscuité, et les pages, au fond, sur l'absence de choix de vie et cet enfermement libre. Et moi, je suis particulièrement intéressé à la prison, et j'ai retrouvé une certaine proximité avec l'emprisonnement carcéral, avec cette absence de futur, et qui ne permet plus de vivre, et que être incarcéré dans un présent qui vous oblige à chaque instant de mobiliser toutes vos ressources, et qui est confronté à un futur qui n'a plus de sens, parce que il ne peut pas s'inscrire dans une liberté, finit par créer un état psychique totalement inaccessible à ceux qui ne sont pas dans cet état. Sensible aussi à la réflexion critique sur l'idéalisation du clochard, qui, font dans le domaine public, apparaît comme faisant partie de la citoyenneté des clochards de Paris, comme s'ils étaient un décor humain. Et je voyais dans 20 minutes ce matin, les journaux gratuits font une illustration de ce que vous dites quand il y avait une interrogation du journaliste en disant il y a eu un SDF qui est mort cette nuit, 7 décembre, alors qu'il y avait 180 places libres pour l'accueillir à quelques centaines de mètres. Et qu'est-ce que c'est que cette mort alors que la société est là, ouverte? Je trouve que votre travail qui a capacité à pointer au fond le rapport impossible entre la mort de cet homme et les 180 places libres donne vraiment à réfléchir. Sur les pages sur la rigidité de l'institution, la rigidité médicale, non pas, et effectivement là je rejoins Richard Petit, le problème c'est pas de dire, parce que médecin, moi-même, nous avons failli dans telle ou telle situation, et que mais l'institution, c'est-à-dire comment ontologiquement elle est confrontée à la rigidité, comment, et c'est là il y a un travail considérable, accepter qu'une institution garde sa subtilité, et je pense que c'est plus contradictoire que jamais, parce que font la demande de soins est totalement inadaptée à l'offre qui en sera faite. Enfin, j'étais extrêmement intéressé par le rapport entre les sigles, et au fond, vous avez raison, mais je me dis qu'une thèse qui est obligée à 6 reprises de mettre 12 pages qui sont répétitives de sigles auxquels on ne comprend rien, au fond, notre société, elle meurt de sigles. Comme si les sigles étaient les réponses de notre indifférence. Et je trouve que les sigles, comme ils deviennent intériorisés par les personnes qui ont recours, finissent par être plus des armes, plus des offenses que des défenses. Et puis, peut-être la notion de la marche de celui qui est dans la précarité comme dernière dignité. et que l'immobilité, c'est la mort, bien sûr, mais c'est en même temps celui qui va marcher pendant des heures pour être dans l'humanité qui marche. On voit très bien cet homme de Giacometti qui est en marche permanente comme dernière dignité humaine. Alors, les quelques questions que je pourrais vous poser très brièvement, est-ce que vous avez le sentiment que l'incarcération libre, dont je parlais, a un sens pour vous? Est-ce que, quelquefois, les mots comme cancéreux, moi c'est un mot contre lequel j'ai toujours lutté, parce que c'est un mot qui tatoue. Quelqu'un qui a été cancéreux, il est cancéreux et qu'il n'est pas plus... Il n'est pas plus ou moins être humain et que le cancer finit par totalement recouvrir son existence. Au fond, on n'en sait pas grand-chose, mais je trouve que c'est très très bien que le cancer et la grande pauvreté, que la grande pauvreté passe au-delà du cancer. Ça aurait été un peu triste que le cancer soit trop présent dans cette thèse, mais moi je trouve que c'est très bien. La question, c'est la retour du secret de l'instruction. Qu'est-ce qu'un chercheur qui se voudrait médiateur, quand il a appris de celui qui lui donne une totale confiance, des informations qu'il va transmettre aux soignants dans l'optique de rendre service à cette personne, le médecin est tout à fait troublé par le fait que le secret médical est théoriquement de l'ordre de l'absolu et qu'il se pose une question, savoir si la rupture du secret médical dans l'intérêt de la personne lorsqu'il est rompu, est-ce que ça ne pose pas une question éthique indéfinie? Et que peut-être une interrogation sur le silence des exclus, c'est-à-dire comment ceux qui ne parlent pas ont autant d'importance que ceux qui parlent, et que peut-être la plus grande tragédie de la précarité, c'est le silence. En fait, je pense que votre travail est un travail qui nourrit d'autres travaux, qui donnent envie de travailler, qui donnent des pistes, et on ne peut pas trop en vouloir de ne pas avoir terminé sur une sorte de synthèse structurée, définitive. Et comment je trouve que un travail est un travail qui ouvre sur un questionnement plutôt que sur une réponse. Et dans ce domaine, j'ai été tout à fait nourri par ce questionnement. Mais j'aurais voulu avoir votre deux réponses sur le premier. Est-ce que vous pensez que ces personnes sont en fait incarcérées comme une sorte d'incarcération oxymorique libre? Et d'autre part, sur la question du secret de ce que vous pouvez avoir appris et donc de la question de la médiation future que vous pourriez avoir à envisager.
Merci, mon cher collègue. Monsieur Benoît, vous souhaitez répondre? Oui.
Merci, monsieur Seyard. Sur la question de l'incarcération libre, je n'ai pas formulé la question de cette façon-là, mais effectivement, en l'entendant, ça ressemble à l'absence totale de liberté qui est la boussole aussi pour ceux qui sont dans la pays et qui est la rue mêlée au champ. Alors, je n'ai pas pu aller à ça, mais un auteur qui s'appelle Vénédéret qui parle même d'institution totale pour la Donc, pourquoi pas, effectivement, je pense que le concept est à l'échelle. Quant à la question du secret d'instruction, effectivement, on peut s'y poser plus d'une fois lors de mon terrain, ne serait-ce que lorsque j'ai parlé du cancer, de ce que j'avais le chat à son travailleur social, et je me suis posé aussi pour les suites de travaux, remettre le travail à des personnes qui, bien sûr, ont fini en un bel pseudonyme par reconnaître les questions. C'est une question qui m'a vraiment embêté, mais j'ai espéré que l'intérêt scientifique, les bénéfices, de la recherche pourraient aller au-delà de ce secret qui risque d'être frappé, sans savoir si la réponse que j'avais faite était vraiment la question valable. fallait rendre, il fallait quand même apporter des illustrations à mes travaux. Et dans les critiques de Marie, j'étais obligé de passer par des récits. Et ne pas passer par des récits qui fatalement trahissaient un des informateurs malheureusement pas. C'est une question qui reste ouverte.
Bien. Nous allons donner la parole à mon collègue et ami, le professeur Alberto.
Et merci, monsieur Benoît, de nous amener aujourd'hui à discuter de ce travail qui m'avait été annoncé. Et je ne suis pas déçu de la lecture du résultat d'un long travail. Je pense qu'il faut que, nous l'avons tous dit, mais ça mérite d'être répété. Il faut que nous mesurions la qualité du long travail d'enquête, sa qualité intellectuelle, par la qualité de l'observation et de la restitution que vous nous donnez, puisque vous nous donnez à voir l'invisible, vous nous donnez à voir ce à côté de quoi l'on passe, ou ce à côté de qui on passe, sans les voir, en ne voulant pas les voir, en espérant ne pas les voir. Qualité éthique dans votre approche de ces personnes que vous avez côtoyées pendant des années, dans votre respect de ces personnes, dans votre façon de les traiter et de les connaître. Qualité scientifique, car je ne peux être personnellement que très intéressé par votre approche d'ethnologie impliquée, sinon appliquée, et ce souci de se confronter aux questions, pratiques de notre temps, qui n'est pas une mauvaise affaire pour la science, mais au contraire une incitation à aller plus loin et à ne pas renvoyer dans les catégories et les concepts qui nous servent trop souvent, n'ont pas de connaissance du temps, de discours sur le temps, de discours rassurants, sans que je le voie. C'est un auteur que j'aime beaucoup et que je vais citer tout à l'heure. Appelle le faisceau d'obscurité qui vient de notre époque. Alors après, une fois que vous intéressez les lecteurs, vous avez le risque, si vous voulez, que le lecteur s'intéresse vraiment à votre travail et le lise, comme chacun va le promener à sa porte, le lise avec ses propres intérêts et vous renvoie des questions que vous n'aviez peut-être pas prévues. Mais parfois, c'est une occasion, c'est vraiment l'occasion de discuter du travail avec les vrais lecteurs. Profitons-en. Moi, au-delà de la question de la santé, je vois dans votre travail une contribution extrêmement intéressante, un élargissement de votre objet à la question de l'État. À la question de l'État, qui nous pose des grandes questions, mais à travers une situation très précise, mais pensant, c'est un point de vue qui est le mien, chercheur, que c'est par ses marques, que c'est par sa façon dont l'État traite ceux qui sont à son bord, ou juste dehors, ou qui dit dehors, qui nous dit le plus sur sa vraie nature et sur la façon dont il se considère lui, dont il considère la norme dont il est porteur et le pouvoir dont il est. Je pense que sur la question de la nation, la mondialisation qui est le nôtre aujourd'hui, les différentes législations concernant les étrangers, le traitement des étrangers, on dit beaucoup plus de tous les discours nationalistes. Et je pense que sur la question de la société et de la norme sociale aujourd'hui, selon l'État est porteur, est particulièrement bien dit dans sa façon dont il traite ce qu'il dit et dit. Et vous nous proposez une structure, je disais à Richard, on partait tout à l'heure, je suis tout à fait d'accord avec cette remarque. Heureusement que vous nous avez mis la page avec tous les sigles à début de chapitre. C'est une aide précieuse, mais vous auriez pu vous y arrêter un petit peu, parce que, bien sûr, nous sommes tous confrontés à une forêt de sigles sans arrêt, mais certains le sont beaucoup plus que d'autres. Et globalement, plus les personnes sont en difficulté avec la vie, avec l'avenir, avec leur santé, avec l'institution, avec le travail, et plus ils sont confrontés à ça.
quand on rêve, DS, UPE, la statistique, c'est moi. Dieu merci pour moi, ça ne me concerne pas. Donc, cette confrontation obligatoire à un état abstrait, à une abstraction que même le lecteur un petit peu informé doit sans arrêt, sur lequel il doit sans arrêt se recycler pour y comprendre quelque chose, me semble indicateur quand même d'une situation d'analyse tout à fait intéressante. Et de ce point de vue-là, vous auriez pu, puisque vous l'avez cité Foucault, vous auriez pu aller un tout petit peu plus loin que la référence à l'histoire de la folie et que je trouve bonne, que je trouve intéressante sur la question de l'enfermement, mais aller voir dans la façon dont il aborde les questions et dont il réfléchit tout dans ses cours au Collège de France avec les années 70, et notamment le cours de 74-75 sur les anormalités. Comment la figure de la normalité, anormalité en ce mot, époque après époque, donne à voir les figures de la norme et les figures de la norme, parce que pour le pouvoir, avec la dernière séquence qui lui a été donnée de voir, je ne sais pas si elle est continuée à travailler la même explication comme vous savez si bien le faire, c'est bon, plus tard ce que ça va donner, mais la dernière séquence qui vous donne à voir, la séquence du corps atomisé, c'est-à-dire d'une figure de la normalité qui est renvoyée à la personne et d'une figure de l'État qui est renvoyée à la discipline et à la correction. De ce point de vue-là, si vous me permettez une petite parenthèse sur la réalité, la façon dont a été traitée la question des sans-logis par une polémique intra-gouvernementale il y a quelques semaines est assez éclairante de ce point de vue-là, entre une ministre qui dit qu'il faut bien les obliger à être à l'abri et un président de la République qui leur dit mais non, on ne va pas les obliger, on va leur montrer à quel point c'est beau, et puis s'ils ne restent pas, ça sera de leur faute. Dans les deux cas, c'est de leur faute. Dans les deux cas, c'est la faute. C'est renvoyer à la personne la responsabilité de ce qu'il y a. C'est à la personne et à la façon dont elle gère sa vie. Et là, de ce point de vue-là, c'est vrai que la référence aux travaux de Georges Campbell aurait pu vous donner quelques accroches, quelques ouvertures, quelque chose sur la question de la vie et du corps. Parce que le travail de Jean-Claude Gambel sur l'état d'exception et sur sa réflexion sur le rapport de l'état, du corps et de l'exception. Sa référence antique de la différence entre la vie de la bios, la vie sociale, qui est celle de la vie normale, et la vie, ce qu'il appelle la vie nue, c'est-à-dire ce que l'état réduit, ce à quoi l'état réduit un certain nombre de situations et un certain nombre de personnes, comme figure de son pouvoir. Me semble, qui est reprise par un autre auteur, qui est le corps d'exception, me semble une figure de pouvoir qui se donne à voir de façon très concrète, très quotidienne, au détriment de ceux qu'on est censé aider dans cette institution où l'aide est toujours sous condition, le droit est toujours sous condition de devoir. Et la liberté d'avoir son corps sous condition de perdre sa liberté de ne pas avoir sa vie, tout ce que vous décrivez avec vous mobilisez Georges comme il aime, vous auriez pu aller un petit peu plus loin encore dans ce contexte que j'ai beaucoup justement sur la question de la normalité. Ce que Fabien propose comme figure de la normalité, c'est la capacité non pas à être dans la norme, mais à se proposer ses propres normes. Et le malade, même s'il est sous prescription médicale, c'est-à-dire complètement normalisé, est bien malade, puisque ce sont des normes qu'il ne maîtrise pas. Si nous prenons la figure des personnes, que vous avez travaillé dans cette année-là.
si on considère que, au moins, la situation dans laquelle ils sont est une situation anormale dans la mesure où elle est prive de liberté, qui sont notamment libres, et qui sont dans une très grande difficulté à s'imposer des normes, encore qu'ils le font. Encore qu'ils le font, ils le font très bien dans des cas qui sont gérés. Ce que leur propose l'institution n'est en aucun cas une aide à retrouver la capacité pleine et entière et consciente dans toute une série de domaines de la vie à inventer ses propres normes. C'est exactement le contraire. Là où il y avait une marge de liberté, là où il y avait une marge de normalité au sens de bien, l'institution les rabat sur ce qu'on peut appeler la sensibilisation, mais les rabat sur une situation où ils doivent suivre les normes imposées de l'extérieur. Que ce soit dans le rapport au temps, au lieu, à la façon de se déplacer de l'institution, ou dans le rapport, au soin qui ne devient qu'une façon, qu'une figure possible de cette imposition d'institution sur la normalisation, qui explique, du coup, je pense, une partie de leur non-confiance, en cas de leur résistance, de leur résistance à cette normalisation. Alors, dans cette la fuite, la ruse, le refus de soin, ça reste des fois des espaces de liberté, des espaces de maintien de sa propre autonomie. Dans cette approche-là, du coup, il y a une partie que je trouve presque faible. Excusez-moi, fait l'effet des erreurs. La petite série de portraits que vous venez à voir vers le milieu de la thèse, avec des catégorisations, les jeunes, les chômeurs, etc. Je la trouve faible parce que, d'une certaine façon, bien sûr, vous avez des matériaux, vous présentez des gens, on ne s'ennuie pas. Mais quelque part, vous avez retrouvé sur les personnes un regard, je dirais sociologique, mais bon, pour ne pas me fâcher avec les collègues sociologues, je vais dire un regard de catégorisation qui affaiblit la prise en compte nécessaire que vous savez porter, mais que l'institution ne sait pas porter, personne ne sait. La catégorisation, en l'occurrence, affaiblit le rapport aux personnes. Or, c'est bien de ça qu'il s'agirait si on voulait avoir une prescription sur cette institution. Alors, je terminerai sur la dernière partie. Parce que je pense qu'au-delà, effectivement, d'une ethnologie des soignants que vous auriez faire, une lecture des institutions si bien ciblées, multiplement ciblées, vous le donnez, aurait pu vous aider à aller au-delà d'une approche. Qu'est-ce que vous dites sur les qui sont pas un rôle sympathique, qui sont victimes ou porteurs d'un ethnocentrisme de classe, qu'ils ne veulent pas voir, qu'ils semblent faire plus qu'adhérer à la logique de l'institution et presque la précéder ou la logique. En vous lisant, je n'ai pas pensé à une autre institution sur laquelle j'ai un petit peu travaillé, et je trouverais que le parallèle me semblerait intéressant que celui qui est. Parce que les enseignants, notamment dans des situations scolaires un petit peu difficiles aujourd'hui, aujourd'hui pas beaucoup qui soient faciles toujours, peuvent avoir comme discours sur les élèves, comme comportement avec les élèves, des ethnocentrismes de classe, des réactions de style « je n'ai pas choisi mon affectation », parce que c'est un des opérateurs analytiques que vous disiez, ou « ce n'est pas mon métier », qui ressemble beaucoup. Et le résultat à l'école, résultat assez bien montré dans un film récent, qui s'appelle « Entre les murs », dans mon sens, j'ai été pendant longtemps enseignant secondaire, outre les appels que j'avais par ailleurs,
Le résultat, c'est qu'on se retrouve dans une situation où les usagers et les professionnels sont tous dans la souffrance, mais surtout pas dans le partage, mais dans l'instrument des souffrances. Donc, il me semble que vous êtes dans une situation de grâce. C'est une piste que je vous propose. Que vous êtes dans une situation de grâce. C'est-à-dire que vous avez des soignants qui sont aussi dans la souffrance, qui sont aussi dans la souffrance parce qu'ils sont comme la plupart des enseignants secondaires aujourd'hui, dans une double prescription de travail. La prescription de leur métier, enseigner, pour l'enseignant, soigner et soigner des individus, soigner des personnes, pour ce qui est l'institution. Et une autre prescription, qui est la prescription de l'institution qui les emploie, qui n'est pas du tout sur le même registre, au point que les deux prescriptions sont aujourd'hui de type contradictoire. Et ils sont dans une prescription paradoxale, dans une prescription. Ils s'en sortent, bien là, de façon héroïque, continuent à essayer de faire leur métier, c'est-à-dire de suivre leur prescription professionnelle envers et contre l'institution dans laquelle ils sont. Ils sont la plupart s'en sortent par la fuite et par une situation de démission qui est une situation qui ne peut pas être sans frais. Donc, si je peux vous proposer quelque chose du point de vue de vos projets, dans l'intervention et la transformation un petit peu de la situation entre les rapports entre soignants et soignants, il me semble qu'il faut que vous preniez comme, un peu comme objectif de dire qu'il y a deux souffrances à traiter et que si on souffre, on n'essaie pas de traiter les deux, on ne s'en sort pas. Il y a deux souffrances à traiter et en identifiant bien qu'il y a un tiers acteur avec lesquels il va falloir soit s'opposer, soit négocier, mais il y a un tiers acteur qui est la situation institutionnelle. Vous avez au fond trois acteurs. Les soignés, les soignants, l'État.
Donc, merci à tous, mes chers collègues, de ces brillantes interventions, qui m'ont, en ce qui m'en concerne, moi, beaucoup, beaucoup éclairé. Alors, il y a un inconvénient majeur, et il y a un avantage aussi majeur que l'inconvénient, que de conclure et que de présider. Puisque conclure, c'est présider, dans ce cas-là, et présider, c'est conclure. C'est que, l'inconvénient, c'est que tout a été dit. Et tout a été dit, et comme j'ignorais les interventions de mes collègues, je ne leur ai pas demandé avant de venir, il est évident que maintenant, je suis confronté au risque des répétitions. Donc, c'est l'inconvénient majeur, c'est la répétition de tout ce qui a été brillamment dit, donc je ne vais pas le redire. C'est évident. J'ai été obligé, du coup, d'improviser un certain nombre de notes, de relecture, pour tenter d'être un tout petit peu original, et vous, je l'espère, en tout cas, vous pardonnerez ce caractère peu original de choses que je vais vous dire. Ça, c'est l'inconvénient. L'avantage, c'est comme tous les avantages, il y en a un essentiel, c'est conclure, c'est-à-dire d'avoir le dernier mot. Encore que le dernier mot, en principe, cela devrait être le vôtre. Mais je tiens quand même à ce que ce soit le mien. Et je vais vous dire pourquoi. Alors je vais vous dire pourquoi. Parce que ce sera le dernier mot d'un néophyte, de quelqu'un qui connaît. Et je remercie beaucoup le professeur Gauthier, et je vous remercie vous-même. Et je remercie Richard de m'avoir invité à Sullery, parce que j'ai fait une découverte. Je ne connaissais rien du tout, il le sait très bien, Richard, d'ailleurs, à l'anthropologie, comme on peut l'appeler, de la maladie, ou là, de la santé, toutes les deux, parce que j'ai très peu lu dessus, et que je m'y suis fort peu intéressé, sauf une fois, dans un hôpital psychiatrique aux Antilles, mais enfin, c'était véritablement un hasard et un accident. Je m'intéresse peu à cette chose, et je me demande bien, d'ailleurs, pourquoi. Alors, la seule raison que j'ai, vous excuserez aussi le caractère tout à fait ordinaire et naturel de ma réponse, c'est qu'on ne peut pas, dans une vie, s'intéresser à tout. C'est pas possible. Alors, c'est un grand pan de l'anthropologie, je l'ai appris en 10 ans, ça évidemment, c'est un grand pan de l'anthropologie, et du coup, vous m'avez donné le goût de la chose, je vais m'y intéresser. Alors voilà la première chose que je voulais vous dire. La seconde, alors essayons de faire un peu dans l'originalité, puisque je l'ai. Voilà, moi, ce qui m'a considérablement frappé en 10 ans, c'est le caractère émotionnel de votre thèse, de votre écriture, véritablement, parce que l'émotion va jusque, va se caler, va jusque dans les mots que vous employez pour écrire ce qu'il faut, il faut l'admettre, et qu'il n'y a absolument aucune honte à l'admettre. D'autant plus que les émotions sont devenues un des grands morceaux importants de l'anthropologie depuis une trentaine d'années. On parle beaucoup des émotions, les anthropologues américains énormément, britanniques, nous un peu moins, c'est vrai. Nous un peu moins, mais je me souviens d'un numéro excellent qui est venu il y a une dizaine d'années, quinzaine d'années, sur les émotions, et j'avoue que la découverte a été très grande. Alors, l'émotionnel, quand je vous ai lu, et l'émotionnel qui m'a habité tout le long de la lecture, est à la fois, est à mon avis une chose qu'il faudrait voir, pas du tout comme l'opposé du rationnel. Je pense que c'est là qu'on pourrait faire un contresens grave, et que je crois que nous avons tous commis à une certaine époque. Et aujourd'hui, je vous répète ce que j'ai lu un petit peu chez nos collègues, surtout américains, anglo-saxons, c'est que quand ils pensent l'anthropologie des émotions, ils ne la pensent pas du tout comme une opposition au rationnel. Bien au contraire, ils la pensent comme devant lui être conféré par l'anthropologue et par le lecteur, comme devant occuper une place méthodologique. Vous l'avez un peu dit avec le rapport à De Freud, un peu, pas assez suffisamment, à mon avis, et même lui attribuer ou lui conférer un coefficient épistémologique. L'émotion est une arme, et c'est une arme scientifique. La seule condition, c'est de ne pas rester passif vis-à-vis d'elle et de ne pas vous laisser envahir jusqu'à la mort, jusqu'à l'extinction de vous-même. Il faut l'utiliser comme une arme que vous laissez un petit peu, mais à mes yeux pas assez, que vous allez utiliser à votre tour comme, au même titre que les concepts, au même titre que les catégories froides que vous employez, au même titre que votre engagement d'ailleurs, qu'on n'est pas obligé de partager, j'entends votre engagement idéologique ou politique, parce que parfois on me demande ce qu'il vient faire ici, mais enfin bon, c'est sans doute à mes yeux peut-être une faiblesse, heureusement que vous n'insistez pas trop, mais il y a des passages sur l'idéologie dominante qui me rappellent les pires moments d'un marxisme et d'il y a 40 ou 50 ans. D'autant plus qu'à mes yeux, il n'y a pas une idéologie dominante, à mon avis, il y en a au moins deux. Donc il faudrait quand même savoir exactement ce que cela veut dire. Vous auriez pu, à ce moment-là, y rester des pages et des pages. Heureusement, vous ne l'avez pas fait. Mais alors, du coup, il aurait fallu éliminer ces petites incises, n'est-ce pas, sur votre attitude à vous, morale ou politique ou idéologique par rapport au problème que vous traitez. Voilà, si vous voulez, la masse de choses que j'ai ressenties en vous disant, c'est d'ordre émotionnel, je le dis, et sans aucune honte. Je suis même assez fier d'avoir si une thèse qui m'a ému, je dois dire que dans ma vie, à mon avis, il ne doit pas y en avoir une ou deux. C'est sans doute la première ou la seconde. Donc c'est quand même extrêmement important, je me suis dit pourquoi, et je me suis dit quel effet ça peut avoir sur le savoir. Voilà, c'est cela la question. Alors, en dehors maintenant de ça, j'ai quatre points à vous dire, sous forme à la fois de remarques, et à la fois, si vous le souhaitez, sous forme de questions. Donc, comme on a un petit peu le temps, il est 18h20, on a un petit peu le temps, peut-être que si vous le souhaitez en tout cas, vous répondrez après. Alors, je partage et je ne partage pas un certain nombre de remarques qui vous ont été faites. Et il faut attendre la page 141, et encore. Parfois, il faut aller au-delà, page 180-190, pour voir enfin apparaître le traitement qui, normalement, étant annoncé dans le titre, c'est même le premier mot, cancer et grande pauvreté. Alors, si ce n'était pas le cas, à ce moment-là, moi, je vous aurais invité à supprimer le terme. Très bien, on ne traite pas du cancer. M. Sicard a dit tout à l'heure, on ne traite pas du cancer parce que c'est triste, parce que c'est... Puis, en effet, vous ne traitez pas du cancer. Il n'y a pas une anthropologie du cancer. De temps à autre, on ne considère rien comme une espèce d'incidence, ou d'adjuvant, ou d'accident dans l'affaire. Alors, c'est une constante ou c'est pas une constante? Alors, à ce moment-là, il aurait fallu enlever le terme, mais bon, je ne sais pas. Ça aurait été grande pauvreté et sans domicile fixe, ou sans vie, voilà, et puis le titre, vous l'auriez évidemment conservé, hein, ethnologie, parce que c'est vraiment, je dirais même, que c'est une ethnographie de la maison de l'enfer. Et là, alors, une ethnographie Kujuna, et ça c'est un compliment que je voudrais vous faire, il est rare de rentrer dans des détails de description aussi sincères, aussi honnêtes, encore que je ne peux pas aller vérifier, hein. Mais je vous fais confiance, parce que c'est pas possible d'inventer une chose pareille. Voilà. Donc comme c'est pas possible de l'inventer, je me dis c'est pas possible, il y a une réalité, il l'a décrit vraiment bien. Et là, pour une fois, on ne peut pas critiquer l'observation dite participante, là, pour une fois, elle sert véritablement à quelque chose. Hein. Les psychologues ont beaucoup parlé, les sociologues, les philosophes aussi, mais l'observation participante, et là, on peut en être fier, mes collègues, pour une fois, on peut dire qu'on est fier de quelque chose en philosophie, eh bien, on en est fier, oui, on en est fier. Et ce n'est pas Park à Chicago qui l'a inventé, comme on le lit parfois, c'est pas vrai. Park l'a pris à Malinowski, comme vous le dites très bien. Et ça, dès les années 1912. Pour une fois qu'il y a un honneur de la discipline d'avoir inventé quelque chose, en tous les cas, au plan de la méthode, eh bien, vous, au moins, vous le mettez en œuvre. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est le terme cancer qui me paraît superfétatoire dans la fin. Cette thèse pose la question. Alors, c'est là où j'ai beaucoup appris. Autant vous le dire. Cette thèse pose une question qui est capitale. C'est, vous allez me dire, c'est une banalité de base que de le rappeler. Oui, mais qu'est-ce qu'être malade? J'en savais rien avant de vous lire. Hein. J'en savais rien sur quand c'est de la fièvre, et encore. Bon, c'est un vécu. J'ai bien aimé d'ailleurs le passage sur le vécu, parce que vous dites, moi, ce que vous le dites vous-même, ce que j'ai tenté de faire, c'est de rentrer dans le vécu. Cette espèce d'incision phénoménologique m'a beaucoup plu, mais le problème, c'est que vous échouez à le faire. Parce que pour une raison extrêmement ancienne, ce qui n'a pas du tout à vous, hein. Vos qualités de l'homme ne sont pas du tout posées en question, c'est qu'on ne peut pas rentrer dans le vécu. C'est pas possible. Le vécu de l'autre, ça c'est l'échec absolu de la phénoménologie. Ça c'est un échec massif. On ne rentre pas dans le vécu de l'autre. Dans le vécu de l'autre, on le regarde, oui, on écoute, oui. On se met entre guillemets, hein, parce qu'on a de l'empathie, c'était la mode, c'est pas de parler de ça aujourd'hui. On se met éventuellement à la place de l'autre. Je me demande d'ailleurs comment on peut faire, mais enfin bon, passons. Mais en tous les cas, cette anthropologie du vécu, je crois que vous la signalez, vous la souhaitez. Mais vous ne la réalisez pas. C'est dommage, mais je pense que ce n'est pas de votre faute. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est être malade? Alors, je me suis interrogé sur cette question en vous lisant. Alors, il y a plusieurs hypothèses. Est-ce souffrir? Je ne sais pas. Est-ce être soigné? Ce n'est pas la même chose, hein. On peut être soigné sans souffrir, et on peut souffrir sans être soigné. Est-ce être pris en charge par un organisme? Ce n'est pas non plus la même chose. Est-ce que c'est accepter de se percevoir comme souffrant? Ce n'est pas la même chose. Est-ce la mesure entre la norme et ce qui la dépasse ou la transgresse? Ce n'est pas la même chose. Petite référence au passage à Canguilhem, évidemment, comme c'est le père qui pose ces questions, mais à d'autres aussi, ou à Marie Douglas. Bon. Est-ce se sentir mal? Bon, c'est une question que vous posez d'ailleurs, page 294. Et c'est une question extrêmement intéressante. Bon. Mais en fait, à mon avis, le problème n'est pas posé de manière claire. Je me permets une petite critique au passage, est plutôt posé, vous ne posez pas ce problème-là, vous en posez un autre à la place, est plutôt posé le problème de savoir ce que devrait être l'anthropologie de la santé. En effet, les centres de médecine fixe posent une question cruciale c'est celle des politiques publiques, tout le monde a dit ici, et surtout Alain, n'est-ce pas, en matière de santé publique. C'est une question qui n'est pas la même que la question de tout à l'heure. Qu'est-ce qu'être malade? Donc vous en avez deux des problèmes. Parfois on a l'impression, comme Alexandre a raison en vous disant, qu'une des deux questions vient sans arrêt recouvrir l'autre. Qu'est-ce que c'est qu'être malade? Est-ce que c'est être pris en charge par des politiques publiques plus ou moins défaillantes? Bon, bien entendu, comme toutes les politiques publiques se mettent au passage, toutes, absolument toutes. Est-ce qu'on est défaillant, je dirais, par essence? Et deuxièmement, est-ce que c'est souffrir, qu'est-ce qu'être malade, est-ce que c'est souffrir, etc., toute la vie que j'ai tout à l'heure. Et sans arrêt, vous passez de cette première problématique à la seconde, et parfois on a l'impression que l'une vient subrepticement, parce que vous le faites avec beaucoup de talent, évidemment, hein, recouvrir l'autre. Troisième question, cette thèse pose par ailleurs la question, alors c'est la grande question, bien entendu, qui est liée d'ailleurs à celle-ci, le professeur Scaria y a fait allusion tout à l'heure, Alain Berthaud aussi. Grande question, d'autant plus que parfois vous confrontez, sans faire exprès peut-être, normes et règles. c'est qu'est-ce qu'une norme? Ça, c'est à mon avis, moi qui suis, je répète totalement, néophyte, je nais à cette question de l'anthropologie de la santé et de la maladie. Moi, pour moi, la grande question épistémologique de base, c'est qu'est-ce qu'une norme? C'est qu'est-ce qu'une norme dans ce domaine-là? Pas une norme psychologique, évidemment, mais dans ce domaine-là. Et en quoi, par exemple, je le dis de temps à autre au passage, refuser de se laver, entre autres, en constitue une violation. En quoi refuser de se laver? Certains refusent de se laver. Refusent, absolument, catégoriquement, c'est volontaire. Refuser de se laver, en quoi est-ce une violation d'une norme? J'aurais voulu que vous nous expliquiez ça mieux que vous le faites page 283, ou vous le faites au passage que citait Marie-Douglas, parce que comme si vous n'aviez rien, mais il vous a manqué une année, c'est vrai. Comme si, vraiment, il vous a manqué une année, là. Comme si, en dehors de Marie-Douglas, il n'y avait personne qui aurait pu vous éclairer sur la question de savoir qu'est-ce qu'une norme. Marie-Douglas dit des choses extrêmement intéressantes, ça ne conteste pas. Alors, le nombre de textes en anthropologie qu'il y a là-dessus est incalculable. Il aurait fallu quand même aller lire sur les Anglais, sur les Américains, en anthropologie, je répète, pas uniquement en anthropologie, hein, qui répondent à ces questions. Alors, moi, les questions sur la norme m'ont beaucoup intéressé en lisant. Parce qu'il me semble que c'est le nœud, que c'est la poutre traversière, que c'est, au plan épistémologique en tout cas, de toute votre thèse, à part l'émotion. Voilà, les deux piliers, si vous voulez, comme quoi, au fond, vous réussissez votre coup. Hein. D'un côté, vous frappez sur la corde émotionnelle, et c'est très bien, et de l'autre côté, vous posez la question essentielle de savoir ce qu'est une norme. Le problème, c'est que vous ne répondez pas exactement à la question de savoir ce qu'est une norme. Vous ne répondez pas. Vous ne répondez pas parce que je pense que c'est très très difficile, surtout dans le domaine que vous abordez. Alors, moi, les questions que j'aurais à vous poser seraient les suivantes, des questions auxquelles vous êtes libre de répondre aujourd'hui ou une autre fois. La norme, est-ce que ça a d'abord une valeur descriptive ou est-ce que ça a une valeur axiologique? Parce qu'il y a des normes qui décrivent et il y a des normes qui imposent en tant que valeur, quoi, je veux dire. Alors, tout le temps vous hésitez entre les deux. Deuxièmement, qu'est-ce que c'est que, c'est la même question tout à l'heure, qu'est-ce que c'est qu'être malade? Et donc, ça renvoie à la question, qu'est-ce que c'est qu'être normal? C'est la question de la norme. Est-ce que véritablement là, la maladie s'oppose à la norme? Ou alors, est-ce que la maladie s'oppose à l'absence totale de norme? Ou alors, est-ce que la maladie ne serait pas, ou ne s'opposerait-elle pas, à une pluralité de normes? Où ça devient tellement confus, que justement, on ne voit pas bien quel fil directeur vous pourriez tirer, et là, je pense une fois de plus qu'il vous a manqué sans doute une année, c'est sûr. Quoi encore quand Dilem, à un moment, dit cette phrase, je parle de sa thèse, là, de sa campagne, si mes souvenirs sont bons, il dit « Peut-on dire que la santé parfaite existe ?» Parfaite. Et il répond, ça n'existe pas pour une raison extrêmement simple. Pas parce qu'il n'y a pas des jours où on se sent bien. Il y a l'écrasante majorité quand on n'est pas malade, des jours et des nuits, c'est qu'on se sent bien. Donc on n'est pas malade. Il dit non, la raison c'est que le concept de santé n'est pas celui d'une existence, dit-il. Et là j'ai trouvé ça vraiment très fort et très beau. N'est pas celui d'une existence, c'est celui d'une norme. Or une norme, on ne la ressent pas comme existence. Une norme, c'est purement intellectuel, toi. On ne la ressent pas, on ne ressent pas les normes. Alors peut-être que cette référence à Candilem, là je parle de sa thèse sur le normal et la pathologie, mais il a repris aussi après dans pas mal de cours, je me souviens d'un cours en particulier où il en parlait, d'un cours à Paris 1, parce qu'il est devenu Paris 1, où il en parlait de manière admirable, où il dit ben, finalement il s'ensuit de cela que pour le vivant, qu'il n'existe pour le vivant de normalité qu'en référence à un milieu. Ça, en référence uniquement à un milieu. Social, culturel. Ça vous aurait sans doute beaucoup servi d'approfondir un peu cela, parce que le milieu là dans lequel on est, à part l'hôpital, c'est le milieu de la rue. Alors, c'est intéressant de savoir, il aurait été intéressant de comparer les deux milieux, ce qu'il appelle lui un milieu, et qui est devenu ensuite un concept d'ailleurs assez fort en anthropologie de la maladie et de la santé. Enfin bref, le pathologique, pour ça tout le monde le sait si on a lu un petit peu du Canguilhem, n'est donc pas l'absence de normes, mais c'est la présence d'autres normes. Celle qui en particulier oblige l'organisme à vivre dans un milieu que lui il appelle dans son vocabulaire rétréci. Le terme d'ailleurs est assez extraordinaire, un milieu rétréci.
c'est là qu'il y a la maladie. Et corrélativement, du coup, ben, le contraire de pathologique, c'est donc pas normal. N'est pas normal. Le contraire de pathologique, c'est sain. Pas du tout. Alors, c'est là la grande confusion que l'on fait tous, entre sain et normal. J'aurais aimé que, une fois de plus, je pense, parce que vous en avez tout à fait les capacités, j'aurais aimé voir des développements plus approfondis sur les rapports entre le sain et le non. Bon, voilà. Alors, il est, lui, moins 10, moins 5. J'aurais aimé aussi, deux, trois questions, page 29, quand vous critiquez de même, enfin, critiquez. Comment dire, vous déplorez, voilà, c'est le meilleur terme. Vous déplorez qu'en science humaine et sociale, vieux serpent de mer qui ressort à chaque fois qu'on lit une thèse, et ça c'est un peu décevant, l'objectivité serait impossible. Non, moi je crois qu'elle est possible. Vous avez tort de dire que l'objectivité serait impossible. Parce qu'il faut croiser comment être. Bien sûr que vous n'aurez jamais l'objectivité que vous aurez en mathématiques ou en sciences expérimentales. Bien sûr que vous n'aurez jamais cette objectivité-là. C'est toujours en référence aux sciences dures ou aux sciences autres qu'on déplore l'impossibilité d'arriver un jour en anthropologie à une objectivité. Mais elle est possible, il suffit de faire d'ailleurs un peu comme vous l'avez fait, peut-être pas suffisamment, il suffit de comparer jusqu'à un certain point, de comparer et de croiser les diverses analyses et points de vue de tout ce qui est possible de faire par les autres, vous, d'autres anthropologues, d'autres enquêteurs, et ainsi de suite. Si en croisant, vous arrivez toujours à peu près à la même information, ben, il nous semble quand même que c'est ça qu'on peut appeler une objectivité en SHS. C'est-à-dire, au fond, c'est quoi? C'est l'addition ou l'agrégation des subjectivités de chaque point de vue. On ne peut pas sortir des points de vue, mais c'est pas parce qu'on a chacun un point de vue que, du coup, la somme des points de vue, la somme avec quelque chose en plus des points de vue, est impossible. Donc, l'objectivité, c'est ça en SHS. Et ce n'est pas rien d'y arriver. Ce n'est pas rien. La deuxième chose, c'est que vous le dites vous-même, les affects, c'est très important, et vous auriez souhaité, mais c'est pas vrai, c'est l'émotion que vous avez construite, de telle sorte que moi, j'ai pu la ressentir. Mais quel coefficient leur donner aux affects? C'est ça que vous ne dites pas. Il faut leur donner un coefficient théorique aux affects. Il faut leur conférer une place dans le savoir. Il ne faut pas dire par rapport aux affects, c'est rien du tout parce que c'est irrationnel. C'est rien du tout parce que ça vient perturber mon analyse. Pas du tout. D'ailleurs, vous l'acceptez, ça. Et vous l'acceptez pas 113. Seulement, ce coefficient, vous ne le donnez pas. Il aurait fallu creuser cette question de quel type de coefficient qualitatif donner au savoir scientifique eu égard aux affects, eu égard aux émotions. Alors, l'idéologie dominante, je préfère ne pas y revenir, parce que je vais peut-être être à ce moment-là un petit peu désagréable. Donc, c'est la page 217. Passons. Page 322. Voilà, c'est le. Vous atteignez le but ultime de votre thèse. Et vous nous dites, les SDF sont non semblables. Pourquoi les voyons-nous donc comme différents? Voilà la question, sans doute, que vous avez eu du mal à poser, parce que vous avez mis quand même 300 et quelques pages pour la poser de manière aussi claire. Vous n'y apportez pas de réponse. Ou alors, la réponse que vous y apportez, si vous y apportez une, on est vers la fin de votre thèse, là. Mais elle est relativement insatisfaisante, la réponse. Parce que je crois que cette insatisfaction, cette indétermination eu égard à la réponse, elle tient à ceci. C'est qu'on peut être, à mon avis, semblable et différent. Pourquoi exclure l'un de l'autre? Pourquoi? Ils sont non semblables et différents. Les deux à la fois. Les deux. À mon avis, pourquoi vous n'arrivez pas à répondre? Parce qu'il me semble que vous confondez similitude et identité. C'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Alors, ils peuvent être non semblables et différents. Et c'est vrai qu'ils peuvent être les deux. C'est vrai que, du coup, tout ce double regard que nous avons souvent vis-à-vis d'eux, double regard, contradictoire. On a peine à avoir un regard, comment dire, unique, franc, droit, honnête, éthiquement ou moralement imperturbable et n'ayant peur de rien. Non, on a le double regard tout le temps. Et ce double regard, ils sont différents. Ah oui, ils sont vraiment très, très, très différents. Pas entre eux, non, mais vis-à-vis de moi. Mais ils sont aussi non semblables, les deux. Et en permanence, on joue sur les deux. Et parfois, on le sent dans votre thèse, d'ailleurs, cette subtilité du regard. Parfois, on la sent. Peut-être que vous n'aboutissez pas totalement à la faire devenir le problème théorique central, à mes yeux, en tout cas. À mes yeux, c'est ce que j'en ai dit, de votre. Enfin, 355, la fin. On a beaucoup parlé d'ethnocentrisme ici, c'est très à la mode aussi l'ethnocentrisme, c'est très à la mode de le dénoncer, très à la mode. Oui, on est tous c'est affreux, il y a un ethnocentrisme de classe, maintenant c'est nouveau, donc là il est arrivé il n'y a pas longtemps, il y a un ethnocentrisme de classe, il y a un ethnocentrisme de culture, il y a... Et puis vous dites à la fin, rien n'est plus difficile, enfin je... on arrive à la fin de votre thèse, rien n'est plus difficile que de surmonter son ethnocentrisme. Comment on fait? J'avoue sincèrement que ça fait quand même 30 ans, 35 ans que je fais le métier, je ne suis jamais arrivé, et mes collègues qui déplorent aussi l'ethnocentrisme du matin au soir, ils ne sont jamais arrivés. Alors la question est de savoir, peut-on dépasser son ethnocentrisme? Et la question est de savoir si on peut, comment? Je ne sais toujours pas. Et puis il y en a une autre, qui est la question ultime, est-ce souhaitable? Est-ce souhaitable? Mais pourquoi le dépasserait-on? On a été fabriqué par des catégories, des visions du monde, des concepts. Une langue, qui est la nôtre. Oui, et c'est la nôtre, c'est pas celle d'une autre culture ou d'un autre peuple. Alors justement, ce qui est intéressant, c'est de confronter les ethnocentrismes. C'est de les comparer, de les confronter éventuellement. Et de ce croisement, pouvoir essayer de voir de là qu'est-ce qu'on pourrait tirer. De catégories qui éventuellement, comme disait le professeur Sicard tout à l'heure, pourraient être universalisables. Je sais que mon ethnocentrisme n'est pas universalisable, mais celui d'autres non plus. Alors en les croisant par le dialogue et la comparaison, peut-être qu'on arrivera à créer, à construire, comme on dit maintenant, des catégories qui seraient trans-ethnocentriques. Voilà, je m'excuse d'avoir été un petit peu long, mais comme j'étais le dernier, je me suis donné cette liberté. Et je vous prie de m'en excuser à la place. Voilà, de toute façon, on n'est pas en retard, il est vite.
Donc au sujet de la question sur l'ethnocentrisme, sur la remarque que je fais à la fin sur le fait que, bien sûr, je considère n'importe qui autant comme mon semblable que mon différent. Ce que je souhaitais montrer, c'était le manque de consistance et de réalité dans les trois catégories des stéréotypes classiques de l'ethnocentrisme qui étaient la folie, l'enfance et la sauvagerie, puisque ce sont elles qui participent à créer des situations sanitaires assez douloureuses, même dramatiques. J'ai totalement conscience qu'on ne peut pas dépasser l'ethnocentrisme et que je resterai sans doute ethnocentrique certainement toute ma vie. Il n'empêche qu'on peut essayer d'en diminuer les conséquences et de voir aussi les erreurs que vous avez eues sur votre conscience. Et je pense que le fait de se rendre compte simplement que les sans-abri ne sont ni des fous, ni des enfants, ni des sauvages, je pense que ça est en partie surmontable. Et donc quand je parlais d'être semblable, je ne parlais pas évidemment dans un sens aussi large que ça. Tout simplement le regarder comme on regarde n'importe lequel de notre voisin. La question suivante.
Ce qui est
très difficile.
C'est impossible.
Voilà.
Les regarder comme s'ils étaient d'autres.
Oui. Non, ce que je veux dire, c'est ne pas regarder les. Oui, mais c'est ne pas inventer par ces stéréotypes des catégories qui ne correspondent pas à ces personnes qui sont donc celles de la sauvagerie, etc. La question sur.
Sur l'objectivité.
Je comprends certes votre point de vue. En fait, c'est mon expérience du terrain m'a rendu, donc peut-être, je le pense pas forcément, mais peut-être que c'est une défaillance de mes méthodologies. Mais tous ces affects, toute la subjectivité qui sont ma subjectivité et la subjectivité des informateurs, m'amène à penser que le fait même d'essayer de les objectiver serait finalement annuler les faits auxquels j'observe.
C'est là qu'on n'est pas d'accord. On fait connaître qu'il y a des accords. On en parlera une autre fois. C'est bien qu'il y a des accords entre nous. Oui, c'est ça. J'avais oublié. Il y a
une salle à
mesure, hein.
Ah bon?
Ah oui.
Donc je suis le... Oui, je suis mon maître.
On voit où il est maître.
Voilà. Voilà. Donc, monsieur Benoît, avez-vous terminé pour les réponses?
Je pense, oui.
Oui. Non, non, pardon.
Il faut que l'on s'en aille.
Non, non, on va pas demander à une foule. On dit que si danse ne pas partir, ce serait inconvenant. Donc, nous allons partir, et peut-être d'ailleurs pas venir du tout. On ne sait pas. Donc, vous allez nous attendre bien simplement, et on revient, promis.
D'avoir été patient. La délibération a été longue parce que nous étions en désaccord trop profond. Et je tiens à vous le dire, monsieur Benoît, le jury, après en avoir délibéré dans sa grande sagesse, a décidé de vous décerner le titre de docteur de l'université Paris-Descartes, avec la mention très honorable. Et vous savez très bien que depuis 2 ans, vous savez, vous ne savez pas dont je vous l'apprends, l'école doctorale 180, la nôtre, dont vous dépendez, a décidé de supprimer la mention « félicitations » et de supprimer aussi la sous-mention « à l'unanimité ». Et nous, nous avons décidé ici de mentionner, donc d'être dans l'illégalité, de mentionner malgré tout, de manière manuscrite seulement, hein, donc de manière officieuse, de mentionner donc mention, ce sera mention très honorable, avec les félicitations et bien entendu à l'unanimité. Je vous félicite.